Ah, et où ça fait longtemps? Ben, pas tellement, hein. On a coupé à 2h. 2h, 2h30 du matin? Quelle heure il est? 9h14, c'est pas mal. Entre-temps, il y a eu une petite nuit, il y a eu la lecture des journaux, on est bien, on est bien, on est bien. Faut que je me mette à bosser sur le tournoi Valorant 100% féminin de ce week-end parce que je suis allé sur le serveur Discord là, je m'aperçois que j'ai pas beaucoup d'infos, surtout j'ai des infos qui coïncident, qui correspondent pas du tout avec ce qu'on m'avait donné. Je vois samedi une fin des matchs à 20h30. Il m'avait dit quoi qu'il arrive, à 19h c'est terminé. Ok. On n'a pas les horaires de dimanche. Dimanche j'ai un simplay à 20h. J'ai pas beaucoup d'infos. Je vais passer un ou deux coups de fil. Je vais passer un ou deux coups de fil après le live là. Parce que ouais, voilà. Je crois que c'est mort pour simplay avec Thibaut. Ah non, 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 s'il y a un problème d'horaire, il y aura pas de. Je ferai pas le tournoi. Ben non, 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 moi j'ai proposé gracieusement d'hoster et de co-caster cet événement parce que je trouve que c'est une jolie cause. Mais après, j'ai donné un cadre en termes horaires, quoi. Donc je vais pas rentrer à 22h chez moi le soir. J'ai un tout petit peu de vie quand même, familiale. Et puis j'ai une émission samedi à 20h, donc dimanche à 20h. Donc non, s'il y a un truc qu'il faut annuler, ce sera pas simplay. Ben non, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle là. Organisateurs. Merci Julo pour le 41e mois d'abonnement, c'est quand même beaucoup. Tiens, je vous mets la bonne caméra. Voilà. Salut Marco Lalune. Mais c'était une bonne soirée hier. Comment ça va vous? Bien? Il fait pas trop froid ce matin. Bizarre. Il doit rester la chaleur du stream d'hier soir. Je pense. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? De la revue de presse? Dex, la revue de presse. 5e revue de presse en 5 jours. Ouais, non, mais le quitterai, je vais me pencher là-dessus sérieusement parce qu'en fait, quand tu fais des choses, il faut des cadres, il faut des. Voilà. C'est bien Quotidien hier, WebBertender, c'était très sympa, ils sont très gentils, les amis de Quotidien. Salut Alerwan. Combien de temps que tu stream? 4 ans et des brouettes, je crois. Oui, mais tu as parlé très peu hier à Quotidien. Faut regarder plus la télé, les gars. La télé, c'est un média très très. Où il y a très. Où finalement, tu n'as pas beaucoup la parole. Évidemment, vous êtes habitué à Twitch où une introduction de live, c'est 1 heure. En 1 heure, en télévision, tu as 15 reportages, 8 invités, 7 chroniqueurs et 2 écrans pub. Donc, c'est pas le même rapport au temps. Non, j'ai énormément parlé sur Quotidien par rapport à un format télé. Mais vous êtes un tout petit peu déformé. Donc non, c'était très bien. À un moment, j'ai même levé le pied parce que je trouvais que je parlais trop. Parce que je sais ce qu'est une émission de télé. Je sais ce que c'est un conducteur. Je sais qu'à ma droite, j'ai 4 chroniqueurs. Qu'à ma gauche, j'ai un invité. À ma droite, un autre invité qui est un présentateur. Qui a des chroniques. Donc moi, je faisais très attention à la durée de mes interventions. C'est même pas Yann qui me coupait. Mais à un moment, je cutais moi-même parce que je sais que si tout le monde abuse, en fait, il n'y a pas l'émission télé, elle crache, quoi. Donc non, non, c'était très bien, en vrai, c'est très bien géré. Non, c'était bien, mais ils sont chauds en plus. Ah bah d'ailleurs, tu vois, ça n'a pas échappé à FRJ. D'ailleurs, ta première prise de parole hier soir, j'ai cru que tu parlais en mode Twitch, exactement. Et puis je te rajoute une info, et puis une info, puis au fait, je ne vous ai pas dit ça, et puis il faut que je rajoute un petit truc, et voilà. Et là, je me suis dit, Samuel, tu te calmes, ça n'est pas ta chaîne, ça n'est pas ton émission, donc tu lèves le pied, quoi. Non, non, ils ont été très gentils. Le coaching, hier soir, c'était top. Salut, ton prénom, c'est Samuel ou c'est Étienne? Alors, Tilfaza, je vais te surprendre. Mon prénom, ça n'est. Je comprends que tu te poses la question. Hein. Parce que mon nom de famille est un prénom, donc est-ce que mon prénom c'est Samuel, est-ce que c'est Étienne, est-ce que mon prénom, enfin bref, et en fait non, mon nom de famille n'est pas Samuel, pas Étienne, c'est Patrick, et mon prénom c'est c'est Régis, voilà, voilà, donc ça c'est toujours un peu surprenant. Merci beaucoup Scal, pas mal pour le 40e mois d'abonnement. Régis Patrick. Mais après, personne ne le sait, ça. C'est parce que on t'attendait pas, Patrick, que t'as changé. Exactement. Exactement. Oui, bien vu. Il y en a qui sont en perf actu ici. Virgin Fire, salut tout le monde. Ils ont mis en pause le projet de TVA pour les micro-entreprises. Oui, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Je vous ai dit que c'était un peu une dinguerie ce truc. Et ils l'ont suspendu. Évidemment, c'est grâce à votre mobilisation sur Twitch. Non, pas du tout. Non, mais en fait, voilà, il y a eu une levée de bouclier, une fronde, une colère sourde qui montait. Oui, c'est grâce au live, bien sûr. Donc le truc est totalement suspendu, il ne va pas s'appliquer pour l'instant. Ouais. C'est trop mignon. Vaillante licorne, je croyais que ton prénom c'était La Matinée. Parce que La Matinée, Étienne, je valide cette blague. Je respire un peu, mais j'attends de voir à quelle sauce on va être mangé, me dit Petit Pinchot. C'est vrai que ça crée beaucoup d'inquiétude. Il y a des articles là-dessus ce matin, je vais vous en parler. On parlera beaucoup d'IA. Préninis, trop mignon. Belle mission. Suspendu, mais voté, entre guillemets, puisque 49.3 à l'Erwan, ça veut dire que ça peut être appliqué n'importe quand. Bien sûr. Bien vu. En pause pour la TVA, selon toi, ça veut dire, me dit Photosaurus, qu'on temporise pour éviter la grogne des auto-entrepreneurs ou bien qu'on réfléchit à de vraies solutions pour de vrai? Alors ça, pour le savoir, il faudrait que je sois dans la tête du gouvernement, qui lui-même peut-être ne le sait pas. Autant dire que je ne peux pas répondre à ta question. Mais c'est une très bonne question. C'est un de ces bazars sur les chaînes info à propos de la loi sur les auto-entrepreneurs, c'est un régal. Je sais pas, je regarde pas les chaînes info. Mais peut-être. T'en peux pas regarder. Hier, je me suis endormi en regardant. Je sais plus quelle chaîne Twitch d'ailleurs. Ah non, j'ai regardé une série sur Disney+. Pourquoi tu n'as pas toutes les réponses du monde? Parce que les gens qui vous disent qu'ils ont toutes les réponses du monde, comme certains politiques, et en fait, ce sont des escrocs. Samuel, un nouveau drama. Dans quoi? Dans la communauté e-sport, Sixon Sleepix, je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout, vous voyez. Je crois que la LFI propose une loi pour annuler cette loi. Ils vont la voter. Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr que les macronistes et la droite et le Rassemblement national vont voter une loi proposée par LFI. Bien sûr, Tilfaza. Non, bien sûr que non. Très joli pseudo. James, pas ta gueule. James, pas ta gueule. Joli. Ça fait bizarre un homme de la télé qui fait du Twitch. Je pense qu'on dit qu'il fait du stream. Je crois. Moi-même, comme j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai du mal à m'habituer, j'avoue. Mais je crois qu'on dit qu'il fait du stream. En général, quelqu'un qui dit. Alors, je ne reprends pas mes confrères de la télé, mais souvent dans les interviews, c'est. Donc, vous qui êtes un Twitcher. Hein? Merde, c'est quoi ça? Comment c'était ton Twitch hier soir? Bah, de quoi? Non, non, moi j'ai streamé hier soir. Alors, c'est drôle parce que tu es sur Twitch toi-même, mais tu poses la question. Donc, peut-être que tu. Oh, tu es un journaliste de la télé? Tu viens faire un reportage? Bienvenue. Ça Twitch? C'est comme ça farte un peu, non? En général, quand quelqu'un te dit alors, c'était bien ton Twitch? C'est quelqu'un qui n'a jamais regardé un stream. Hein? Quoi? Attendez, parce que parfois il y a des messages, je les comprends pas et où je comprends pas tous les mots. Gats SC. Attendez, alors là, concentration. Boah, deux points, ouvrez les guillemets. Let's go. Ouh, ça va, un petit échauffement là. Est-ce que tu reçois des consignes? Alors moi, je ne reçois des consignes de personne parce que je suis vraiment, j'ai un mauvais caractère. Je suis le pire élève, quoi. Je ne supporte pas qu'on me donne des consignes. Ok. Donc, est-ce que tu reçois des consignes? Non. Mais dans la vie, d'une façon générale. Attends, c'est le début. Pour passer sur ce genre d'émission comme quotidien, non. Ma com, je la décide tout seul. Personne ne m'oblige à aller dans une émission. Personne ne m'interdit d'aller dans une émission. J'en fais qu'à ma tête. Je suis un très mauvais élève. Ok, on continue. TMC appartient à Xavier Niel. Aïe. Non. TMC appartient à TF1. Et tu as récemment fait un format avec lui. Parce que je l'ai invité dans MVP, c'était drôle, un jeu aux jeux vidéo. Te préoccupes-tu de la problématique que cela pose d'avoir un milliardaire qui prend autant la parole et grâce à toi? Là, je ne sais que répondre. Je vais réfléchir à tous les éléments de la question et je reviendrai vers toi. Allez! Peut-être que, attends, peut-être, non, peut-être que c'est un leak. Peut-être que Xavier Niel est en train de racheter TMC, peut-être TF1, et qu'on ne le sait pas, et que certains ont l'info. Et peut-être que l'un, quelqu'un a leaké là. Et ça, on ne sait pas ça. Et ça m'intéresse. C'est un leak? C'est un leak? Ou alors tu as free et, ça marche, et ta box marche pas très bien? C'est une histoire comme ça? Merci Firaxis, tu régales. Merci les amis qui enfin m'appellent par mon prénom, Régis. Ok, d'autres questions? Les consignes de ta femme, tu les reçois? Alors, Aleroine, Hélène me donne des consignes, mais elle me donne des consignes, comme elle me connaît par cœur, elle est très intelligente en plus par ailleurs, ma femme. Et Hélène, en fait, elle me donne jamais de consignes, parce qu'elle sait qu'on ne peut pas me donner de consignes, parce que j'ai un caractère de cochon. Hein, breton, taureau, caractère de... C'est pas le mot cochon que j'ai utilisé, mais très mauvais caractère. Je suis très têtu, quoi. Donc, mais comme elle est très intelligente et très fine, en fait, elle m'en donne des consignes, mais de façon extrêmement subtile, quoi. Et je sens qu'il y a parfois des trucs qu'elle me dit, je sens qu'il n'y a pas trop d'espace de négo, d'échange, de discussion, quoi. Voilà. Merci, Marveille Bezdache. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est malin, ça. Ah, il est taureau, tu t'es expliqué. Ah oui, mais j'assume. J'ai une vraie question, Régis. Tu crois encore à la poétique? Oui, malgré tout, ouais. Même si je m'en désole et je m'en arrache les cheveux. D'où le début de Calvas, d'ailleurs. Hein, tout le monde se dit, oui, Samuel, il a moins de cheveux qu'avant. C'est peut-être un déficit en vitamine D. Tout ça, non. C'est là, je m'arrache les cheveux du spectacle de la politique, quoi. Chaguet étant né le même jour que toi, je te comprends. Tu vois, les taureaux, ils sont, voilà, ils sont un peu, ils sont pas, c'est pas les plus malins du monde, mais voilà, hein, ils sont d'un bloc, quoi. Ils sont durs à bouger, ils sont pas rapides, ils sont un peu lents à se décider, mais après, quand ils sont tendus vers un truc, y a pas grand-chose qui peut les arrêter, quoi. C'est les taureaux, quoi. Je me régale tellement à vous lire. C'est quel bonheur. J'aime lire les journaux, mais vous lire, c'est vraiment mon petit plaisir. C'est mon petit. Je connais Otouane, ouais, Ice Iron, l'émission. Bah, c'est pas Kian Kojandi qui la propose d'ailleurs. Moi, je ferais jamais ça, hein. Je suis incapable de bouffer des trucs épicés. Salut Alexandra, comment vas-tu? Je vous lis un petit peu. Toton a raison. Et d'ailleurs, ce qui est... En fait, dans la question tout à l'heure dont je me suis un petit peu moqué là, avec TMC qui appartient à Xavier Niel. C'est dommage parce qu'en fait la question était bon était factuellement erronée, mais sur le fond posait une vraie question qui est posée du coup par Toton, qui est une bonne question. Sans rapport avec le message précédent, il y a un sujet Xavier Niel, on le voit beaucoup plus dernièrement dans les médias. Oui, l'habileté de Xavier Niel à utiliser les médias et notamment les médias numériques pour mettre en avant son image et ses actions en tant que chef d'entreprise, oui, c'est un sujet d'étude intéressant. Voilà. Mais ça, voilà, mais tu vois, Toton, cette question que voulait poser l'autre personne tout à l'heure aussi, Ce qui est un peu plus agressif, disons. Toi, tu as reçu Xavier Niel, pourquoi tu vas sur TMC qui appartient à Xavier Niel? Bon, on partait sur un mauvais terrain, quoi. Ça allait pas. Mais la question, en revanche, de l'analyse de la dextérité, de l'habileté, de la souplesse médiatique de Xavier Niel, oui, ça c'est intéressant. On peut dire ça aussi de. Comment il s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, si je dis pas de bêtises, patron du groupe Leclerc, je sais pas si ça a changé, parce qu'il y avait l'histoire de frère aussi. C'est comme quelqu'un qui, à une époque, on voyait sans arrêt sur les plateaux télé, hein, sans arrêt. Et parce que c'est un bon client, comme on dit, on appelle ça un bon client dans les médias. Un bon client. Voilà. Et lui profitait d'être invité sur des sujets pour parler d'économie, de pouvoir d'achat, pour vanter en fait son entreprise, quoi. Belle publicité gratuite, quoi. On le voit toujours sur les plateaux? Bon, il est toujours invité. Et moi, je me rappelle, moi, qu'à un moment, j'avais dit à des rédactions, à chaque fois que son nom popait pour être invité, je dis, attends, ah, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un d'autre? Hein, t'entends, je dis, vous êtes sûr que c'est encore lui que vous l'invitez, sachant que, en fait, il va accepter votre invitation, mais pour faire passer des messages à caractère publicitaire pour son entreprise, quoi. Après, bon, c'est loin d'être le pire entrepreneur. Je comprends pas trop la haine envers lui. Alors moi, j'ai aucune haine avec Michel Leclerc. Je pense que le mec, il est très sympa. C'est juste qu'en fait, il est surinvité par rapport à ce qu'il représente, quoi. Et surtout, pour l'avoir interviewé plusieurs fois, il est là, pas pour répondre à vos questions, mais surtout pour faire passer des messages quant au fait qu'il faut absolument acheter chez Leclerc. Mais pourquoi, du coup, je continue, hein, monsieur Bigalon, mais pourquoi? Parce qu'on est au tribunal correctionnel. Mais du coup, pourquoi t'as fait pareil avec Niel, je capte pas. Ben, parce que moi, Niel, je l'ai jamais reçu. Simplement. Alors que Leclerc, je l'ai reçu, je sais pas combien de fois. Parce qu'on me l'imposait sans arrêt. Une fois par an, il y avait l'invitation à Charles-Édouard Leclerc, quoi. Voilà. Et moi, Xavier Niel, qui a un profil pour le coup intéressant quand même, avec des zones sombres dans sa vie, tout ça, je l'avais jamais reçu. Et je trouvais ça très intéressant. Surtout pour jouer aux jeux vidéo avec lui, puisque c'était une interview sous forme de jeux vidéo, puisqu'on a joué à Smash. Donc voilà. Donc pour le coup, moi, c'était pas, j'avais pas le sentiment de l'avoir surinvité, quoi. Une invitation en 35 ans 30 ans de journalisme, ça va, quoi. Tu vois? Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu ces derniers jours. Je crois que je me suis gouré sur le prénom de Michel-Édouard. Ouais, je sais, ouais. Pingouiné, j'ai vu ça. Ouais. Très choqué de. Alors, moi, tiens, je joue un coup de gueule ce matin. Que me permet Pingouiné. Pingouiné me dit: Bonjour Sam et les viewers, est-ce que vous avez vu le plateau sur France Info où ils discutent tout à fait tranquillement, paisiblement, vous avez vu ça ou pas? De la faisabilité, de la transformation de Gaza en Côte d'Azur avec un professionnel du tourisme. Ils ont invité en plateau un professionnel du tourisme pour dire: Mais en fait, l'idée de Trump, là, sur Gaza, est-ce que ce serait pas, est-ce que c'est faisable, transformer Gaza en Riviera touristique avec des beaux hôtels et tout, quoi. France Info. Ils ont posé sérieusement la question à un professionnel français du tourisme. Et le mec a dit: Oui, c'est vrai que la région a ses avantages, les côtes, voilà, le soleil. Bah oui, il est où le problème, demande Dijoya, voilà, qui donc fait partie du problème. Je vais te dire le problème dans un instant. C'est parce que tu ne t'es pas beaucoup. Tu déconnes, Polo? Oh, Polo, putain. Polo, je sais pas s'il troll ou si t'es complètement. Il y a des mots faut pas que je les prononce. Après, j'ai des articles dans Le Monde. Il y a Polo qui vient. Bah oui, c'est où le problème? Bah oui. Il troll? Je sais pas. Je suis pas sûr, Polo. Avec Polo, on sait pas trop. Il est où le problème? Bah, il est où le problème de déplacer 2,5 millions d'habitants de leur terre? De Gaza, hein, 2,5 millions de Gazaouis, hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées, de force, sans leur demander leur avis, dans d'autres pays, Égypte, Jordanie, et ils reviendront sans doute jamais sur leur terre. Il est où le problème? Mais il n'y a aucun problème. Mais non, je suis pas sûr qu'il troll. Je pense que Polo, Il est très premier degré. On a un petit sujet avec Polo qu'on surveille un petit peu du coin de l'œil. Voilà, donc pour répondre à la question de ceux qui disent mais il est où le problème? Oui, il est où le problème de transformer Gaza en une riviera? Et donc sur France Info, ils ont posé la question à un moment à un mec du tourisme. Il a dit ouais, c'est vrai qu'il y a du soleil, il y a des côtes et tout, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un lancement dans le JT de TF1 de 20h, je ne sais plus comment s'appelle le présentateur, qui soulève le sujet avec les mêmes termes. Mais est-ce que ce serait possible et faisable la proposition de Trump? J'ai le boulot, j'avais oublié. Voilà. Et ce matin, pas un article dans la presse écrite là-dessus. J'ai été un peu déçu. Je m'attendais vraiment hier soir à retrouver ce matin dans les journaux un papier sur au moins ces deux interventions-là. Voilà. Après, le mec a été appelé pour ça, il a répondu à la question, c'est juste odieux de l'inviter, on est d'accord, sans doute. C'est pas le mec du tourisme, hein, qui n'était pas très bon d'ailleurs, que je critique, c'est l'invitation médiatique dont il a été l'objet, quoi. Donc, j'ai été choqué par ces deux séquences, vraiment, et j'ai été choqué par le fait qu'il n'y ait pas un seul journal, voilà, en print, c'est-à-dire dans les versions papier PDF, qui en parle, hein, puisqu'on met, en gros, aujourd'hui, un journal, un grand journal français, il va mettre tous ses articles en gros en ligne, hein, sur Internet, consultable gratuitement ou sur abonnement, d'accord? Et puis après, il y a une partie des articles qu'ils vont mettre en ligne, qu'ils vont mettre dans le print, dans le journal papier, hein, qu'on peut télécharger sous format numérique. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait un journal avec des pages et puis une hiérarchie de l'information qu'il n'y a pas sur Internet. C'est pour ça que j'aime lire les journaux sous cette forme-là. Et donc, il y a une partie seulement des articles qui vont sur le print, quoi. Et là, j'en ai pas vu. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des articles sur Internet de ces médias sur Gaza, tourisme? Je suis en train de rechercher. Sûrement que oui, j'espère. Bah voilà, c'est ça qui est. Et c'est voilà, il y en a. Mais c'est dommage que ce soit pas dans le print, vous voyez. Regardez, en 2 secondes, on trouve. Donc c'est pas que les médias n'ont pas parlé. C'est qu'ils n'ont pas trouvé ça suffisamment important pour le mettre en avant dans le print, là où c'est le plus lu. Hein, France Info, article dans Libération, voilà, France Info déplore et supprime une séquence qui imaginait Gaza en petit paradis touristique. Voilà. Donc c'est un article sur Internet, quoi. Donc France Info a déploré, c'est quoi les excuses? Qu'est-ce qu'ils disent pour s'excuser? Sollicité par Check News, donc c'est le service de Libération qui vérifie les informations. La communication de la chaîne a réagi en notant une séquence totalement inappropriée, ok, dont acte, et regrettable, a été diffusée hier. Nous l'avons supprimée de notre site, déplorons ce moment. Ok. Voilà. Ok, et je vois un article de Monde aussi, France Info critiquée après un débat sur la possibilité de faire de Gaza. Donc vous voyez, en fait, c'est pas que les médias n'ont pas parlé, mais ils n'en ont pas parlé sur leur vitrine. Voilà. Moi, j'étais un peu déçu de ça. Mais du coup, ça en parle. J'apprends aussi que France Info s'est en quelque sorte excusé pour cette séquence. Et on l'a supprimé du replay. Ok. Bon, après, les médias qui parlent des médias, c'est aussi regarder son petit nombril. Et... C'est vrai que c'est pas ce que je trouve le plus passionnant, mais on en parlait, quoi. Tom Greg 45 vient d'arriver sur la chaîne, ses premiers messages. Donc je voudrais l'accueillir chaleureusement. 4 messages déjà depuis 9h33, alors que c'est vraiment c'est la première fois qu'il vient sur la chaîne, enfin, écrire en tout cas, follower depuis hier. Première question 9h33, ton métier il rapporte combien? Bon, tac, c'est cash direct. Oh, bonjour, ça va? Bienvenue. Deuxième message à 9h34. Ton métier, il rapporte combien? Ok. Troisième message à 9h37. Devinez la teneur du message. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Je pense que c'est Élise Lucet. Je pense que c'est cash investigation. Troisième question, à 9h37, vous allez être très surpris. Ton métier, il rapporte combien? Et je voudrais saluer l'activisme de ce nouveau viewer qui vient d'arriver, qui à 9h38 écrit ton métier. C'est une vraie surprise, je ne m'attendais pas à cette question. Il rapporte combien? Élise Lucet? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux devenir Twitcher? C'est le fisc? Ouais, moi là-dessus, je suis irréprochable. J'aime dormir sur mes deux oreilles, donc je déclare tout à 200%. Je donnerai pas de chiffres. En France, c'est compliqué de parler d'argent. Je vis depuis que je fais de la télévision. Donc, j'ai commencé une vingtaine d'années. Je vis confortablement. C'est-à-dire que je n'ai pas de soucis matériels et j'en suis heureux. C'était pas l'objectif, mais j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc, j'en vis bien de la télévision et Twitch m'apporte aussi des revenus. Voilà. Suffisamment pour vivre, c'est que je pourrais arrêter la télévision pour vivre que de Twitch, pour répondre à tes questions. Alors que j'ai un train de vie de fou et je suis et j'ai voilà, j'ai besoin d'énormément d'argent au quotidien. Non, en vrai, non, je suis un peu un clodo. Moi, je m'achète deux jeans par an, quatre t-shirts. Voilà. Des hoodies, j'aime bien, c'est chaud, c'est pratique, il y a des poches. Voilà. Et j'use un peu tout sur la corde. J'ai pas de hobby onéreux. J'ai une voiture d'occasion qui m'a pas coûté très cher. Voilà. Si, je dépense pas mal d'argent dans les vacances pour la famille. Ça, c'est mon gros poste de dépense, ça. J'avoue. Ouais. Là, je mets mes sous là. Tu places ton argent, du coup, pas trop, non. Pas trop, non. Je rembourse, par contre, je rembourse mon emprunt immobilier comme plein de gens. Voilà. Quand j'avais. Quel âge j'ai là? Putain, 60 ans, j'ai failli dire. 53. 53. Quand j'avais. Je sais pas moi. Je sais plus. Enfin, je sais plus il y a combien d'années. Je sais pas, il y a 6 ans peut-être. Il y a 6 ans. Je sais pas, je me trouvais un petit peu mou du genou. J'avais plus trop d'ambition professionnelle. Je m'endormais un peu sur mes trucs. Plus trop le feu, quoi. Je me suis levé, j'ai eu une idée de génie. Une idée de génie. Tu le rembourses encore? Ouais, jusqu'à 65 ans, je crois, l'enclencheur, ou 67 ans, je sais plus. Et justement, c'est cette histoire que je vous raconte. Et donc, je me suis réveillé un matin, je me dis, putain, j'avais plus la niaque, j'arrivais plus à me lever tôt le matin, j'avais plus faim, quoi. Je me dis, comment tu vas faire? Hein, t'as 45 ans, il te reste 22 ans à cotiser, parce que la retraite, c'est à 67 ans pour moi. Et je me suis dit, comment tu vas faire? Je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit, quelle est la somme maximale que vous pouvez me prêter? Voilà. Je vais acheter un nouvel appart. Donnez-moi le. C'était à l'époque, les taux étaient très très bas, les banques prêtaient facilement énormément d'argent. Il y a eu une séquence comme ça, je sais pas si vous vous rappelez. Je lui ai dit combien vous pouvez me donner au maximum? Il m'a dit, je vais waouh! C'était énorme comme ça. Et je lui ai dit, mais vous croyez que je peux rembourser ça? Oui, avec vos revenus d'aujourd'hui, ça passe. Je lui ai dit, oui, mais les revenus d'aujourd'hui, demain, c'est peut-être pas les mêmes, c'est la télé, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il me dit, non, non, mais j'ai confiance. Ouais, des taux genre à 1%. Ouais, on était sur des taux autour de 1%. Ouais, c'était incroyable. Et donc, ça prêtait. Ouais, exactement. Tu vois, il y a des gens qui ont emprunté à 0,8% dans le chat. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit banco. J'ai pris cette somme. Voilà. Donc, j'ai acheté un bel appartement pour ma famille, puisque je voulais des enfants. Et depuis, je rembourse, quoi. Je peux vous dire que ça m'a motivé. Hein, parce que j'ai emprunté beaucoup trop d'argent. Voilà. Et ça n'avait aucun sens. Et du coup, le matin, quand je me lève et que j'ai pas trop envie, pas trop la niaque et tout, je me dis, oh là, pas trop envie. Là, voilà. Et là, je fais, ah oui, je pense à la somme qui me reste à rembourser. Et là, je fais, allez, let's go, allez, un petit café, un petit thé. Voilà. Et c'est une vraie histoire. Je n'ai jamais trop raconté celle-là. Mais c'est une vraie histoire. C'est complètement débile, hein. Parce que, du coup, voilà. C'est ça, aucun sens. Je pense qu'il y a d'autres façons de vivre que de. Voilà, mais pourquoi je parle de ça? Ah oui, est-ce que je place de l'argent? Non, je rembourse mon prêt, quoi. C'est pas une vie, ça. Bah, je suis d'accord, Dex, je suis un peu con là-dessus. Mais après, j'ai un rapport au travail qui est un peu compliqué. J'aime bien quand ça pique, j'aime bien quand ça fait mal. Donc voilà, et puis je trouvais, je sais pas, j'aimais bien l'idée d'avoir un bel appartement pour que ma famille vive dedans. Voilà, et puis voilà, c'est en gros, c'est mon principal poste de défense, quoi. De défense, de dépense. Ouais, mais c'est pas, c'est un move, c'est pas le move le plus foufou. Hein. Voilà. Bon, on bosse parce que j'ai un. Merci Lucky 13, merci Isarakiri, merci Diclo, merci oh Hugo, merci Dun Blaster, merci Lorslold, merci Claire de Di, pop, pop, le remboursement de l'emprunt, let's go. Merci Dollar pour le 17e mois, merci Yves du 13. C'est quoi j'ai ces subs, j'avais pas vu. Merci la Reine du Sud, merci Marveille BZH, c'est pour ça le merci tout à l'heure, j'avais pas vu. Ok, merci pour les soutiens. Voilà. Voilà, super. Bon, on les gars, bon, merci de votre humour aussi, de votre compréhension. On fait un petit sommaire? À midi, je vous laisse, j'ai un rendez-vous pour parler d'un stream à la montagne, enfin d'un Twitch à la montagne. En Belgique, on vient d'acheter notre deuxième maison, maison pour la vie cette fois-ci, on va la rembourser pendant 20 ans, me dire aussi, bah, c'est ça, moi j'ai pris un emprunt pour 20 ans, donc j'ai dû emprunter vers 45 ans, et puis je vais finir à 65 ans. Voilà, exactement. Merci Opto2A. Comme Inox, ah non, je vais pas faire l'Everest moi. Non, non, je vais prendre. Non, non, je vais faire un stream, je vais descendre une piste verte, moi. Non, on va pas se mettre en mode Kaizen. Non. Non, non, j'ai toujours mon. Non, non, j'ai toujours mon sachet. Ah oui, non, j'ai toujours mon sachet. Non, c'est. Ah ouais, c'est certain. Mais tu as enlevé le sachet de ton whisky chaud? Non, non, je l'ai toujours. Parce qu'en fait, bon, les habitués le savent, ce n'est pas du thé. C'est du whisky chaud, c'est très bon pour la gorge. Et je mets un sachet de thé pour faire croire que c'est du thé. On est entre nous. On se dit les choses ici. Chacun son Everest. Voilà, moi c'est un whisky chaud tous les matins. C'est bon, Tatiana et 4 subs t'ont embarqué. Ah, dans le ski, c'est vrai, ouais. Ah, je serais pas con de faire un truc avec elle, en vrai. Tu t'es créé ton propre coup de pied au HUC pour te lever le matin. Exactement, JCoStream. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai vraiment pensé cette opération immobilière comme ça, quoi. Bon, je le regrette pas, ça m'a motivé. Motivé. Eden Blaster. Oula, parler d'alcool le matin, ça me donne des nausées. Petite soirée arrosée, mon Hugo? Allez, on y va pour le sommaire? Allez, vous êtes OK? J'ai un oui, j'ai un go, j'ai un let's go! Ma voisine, Josette, attaque au petit blanc à 8 h, c'est pas mieux. Oula, bisous à Josette. Let's go! Ça va, Sugar Frog? Oh, merci pour hier soir. Let's go! Ah, j'adore ces let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin? Dans l'actu. OK, bon. Je me cure le nez en direct, on est sur Twitch, c'est cool. Vous savez les appels téléphoniques intempestifs, là. Hein? Le démarchage, là, le truc qu'on n'en peut plus, là, les numéros, les bidules, les SMS. C'est moi, mon son vibre un petit peu, non? Vous me dites. Hein? Ah, mais votre carte vitale va bientôt expirer. Oh, j'ai un voilà, Sam, j'ai un colis pour toi, mais il ne le rentre pas dans la boîte aux lettres, tout ça. Ouais, c'est insupportable. Bon, il y a un dossier dans le Parisien là-dessus. Ces appels qui nous rendent fous. Démarchage, arnaque. Les Français n'en peuvent plus. Ouais, on est d'accord. D'être harcelés par des coups de fil intempestifs, plus les SMS. C'est de mieux en mieux fait, en plus, leur truc. Une proposition de loi donc qui vient de l'Assemblée et pas du gouvernement, examinée en mars, pourrait enfin endiguer ce phénomène. Ouais, je suis modérément optimiste, moi, sur cette histoire. On verra ça. Merci Extreme Darkness. Merci Théotech. Merci Opto2A. Et merci à tous ceux que j'ai pas pu remercier hier soir sur le stream avec Mel, que quand j'ai un invité, une invitée, je ne regarde pas trop les subs et je m'en excuse. Voilà, on va parler de ça ce matin. C'est dans le sommaire, j'accélère. En deux, on a l'histoire de la TVA. Le truc suspendu là, tac 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 tac, c'est page 7 dans le Parisien, puisque bon, les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs étaient extrêmement inquiets de cette histoire. Un sursis, le gouvernement a décidé de faire machine arrière, hein, pour dire les choses. Le budget 2025 prévoyait de revoir les règles d'application de la TVA à leur désavantage. Face à l'affront, le gouvernement suspend la mesure. C'est oublié les 25 000? Oui! C'est totalement suspendu. Mais comme le dit l'Akakir, on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Le texte n'est pas annulé, il est suspendu. Vous voyez que ça n'est pas la même chose. Ça peut être appliqué n'importe quand. Mais pour l'instant. Oui, tu repasses à 85 de cas. Énigme noire. Ils ont totalement suspendu le truc. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé le stream d'hier. Salut, Iria. Ils ont. Ouais, Web Ruby, je n'ai pas aimé l'article de toi du Monde. Personne ne l'a aimé, personne. Personne, même les lecteurs du Monde n'ont pas aimé, si on en croit les commentaires. Ouais, donc voilà. Si, ils ont fait machine arrière vers Zone Fire. Si, 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 si. quand le lundi, ils te disent on va taper les auto-entrepreneurs sur la TVA, et que le mardi, ils disent on suspend, c'est faire machine arrière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire machine avant. Ah, eh ouais. Marche arrière, marche avant, tu vois. Bah si, mais là, ils reviennent en arrière. S'ils avaient maintenu le truc, ils auraient pas... mais là, ils reviennent en arrière. Mais ça n'est pas définitif. Ok, on en reparlera. Donc ça, on en parle ce matin, c'est très important. Le Figaro donnera son avis là-dessus aussi. Hein, c'est en une du Figaro. Voilà. Qu'est-ce que pense le Figaro de cette histoire de TVA là, hein, pour les petits entrepreneurs? Inutile et dangereux. Bam, ça dit les termes. Let's go, le Figaro. 4. En 4, je vous parlerai des avions de chasse français que la France donne à l'Ukraine. Ça y est, ils arrivent. Ouais. C'est où ça? C'est dans le Parisien, page 6. C'est ici. Ouais. Des mirages français dans le ciel ukrainien. Le ministère des Armées a annoncé hier la livraison des premiers avions de chasse français à Kiev, qui s'en félicite au moment où elle subit la pression de Trump pour négocier la paix. Voilà. On ne sait pas combien. Voilà. On ne sait pas combien. C'est pas précisé. C'est un peu secret défense. Voilà. Ouais. Donc on en parlera rapidement. Il y a 4 gars qui dit let's go, 3 Mirage 2000. Voilà. Il y a 4 gars qui dit 5 maxi. Il y a toutes les infos, 4 gars. Il dit 3, il dit 5, il va dire 7. C'était pas toi, TMC, tout à l'heure déjà? Attends. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, TMC, je confonds. Excuse-moi. Donc on sait pas en fait. Mais c'est plutôt 3 ou 5 effectivement que 20, tu as raison. Non, mais il a raison. Je pense que c'est plutôt là-dedans. Jernet, Bensouz, bienvenue. On parlera de ça. On parlera de l'Ukraine, parce qu'on n'oublie pas ce conflit. On parlera aussi des personnes en situation de handicap. Toujours le Parisien. Le Parisien, ce matin, il y a pas mal de choses. Hein, ça dépend des jours. Bientôt, la gratuité des fauteuils roulants. Ah. Gratuité. Hein, à voir. Parce que tous ne valent pas le même prix. D'ici la fin de l'année, il devrait être intégralement remboursé par l'assurance maladie, a promis Emmanuel Macron ce jeudi. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme dit Twisted Arts. Voilà. Mais on sait que certains fauteuils roulants, électriques, pour certains handicaps très lourds, peuvent être extrêmement chers. Est-ce que ce sera remboursé à 100%? Je pense qu'il y a des plafonds. Voilà, je pense qu'il y a des plafonds, on verra ça. Mais il y a du mieux. Jarvis, avec quel argent? Bah avec l'argent qui pousse dans les arbres, Jarvis. Bah, t'as pas un arbre habillé chez toi? Avec quel argent? Bah avec l'argent qui pousse dans les arbres. Question conne, réponse conne. Hein, bah avec l'argent public, mon chouchou. Les impôts, le... Jarvis, bordel! Hein? Non, mais quand tu veux dire un truc, dis-le. Plutôt que dire avec quel argent, qui est une question un petit peu, comment dire... C'était ironique. Oui, Jarvis, ce que tu voulais dire, c'est pourquoi? Pourquoi l'argent public sert à améliorer la vie des handicapés? Dis-le! Dis-le, Jarvis! Non, mais il faut aller au bout. Avec quel argent? C'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu genre, mais quel argent? Tu sais très bien quel argent, c'est l'argent public. Dis, si tu penses que c'est une mauvaise idée que l'argent public serve à arranger la vie des personnes sur le handicap, dis-le. Parce qu'en fait, c'est ça là, la question. Dis-le, Jarvis. Ou sinon, explique-moi le pourquoi de ta question. Jarvis ? C'était quoi le sens de ta question ? Ah ! Merci Jarvis. Non, pas du tout. Je veux aller au bout, je pense que c'est une très bonne idée, mais que ça va être très difficile de trouver encore plus d'argent public. Alors dis-le comme ça, bordel. Tu vois, c'est un peu moins... Sinon, ça fait un peu, tu vois. Ok, Jarvis, je valide. Ok, merci de ta réponse, en tout cas. Salut, la daronne. Bon, après, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de dépenser l'argent public, si je puis me permettre. On a une société qui a tout petit peu progressé ces dernières années en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap à l'école, dans le monde du travail, dans la société, d'une façon générale, dans les transports. Il y a des progrès, il ne faut pas les nier, il y en a. Hein. Les associations qui représentent les personnes en situation de handicap le reconnaissent, mais ça n'est pas assez, il faut faire plus. Voilà. Et je pense que La beauté d'une civilisation se mesure notamment à ce que nous faisons pour les personnes en situation de handicap, notamment. Voilà. Après, si ça vous embête de payer des impôts pour ce genre de choses, ok, dites-le, mais par contre, dites-le clairement. Ah oui, je sais, certains ont repéré ça, là. La drogue! Ah, certains ont vu, là. Je sais pas, il y a un cannabis de synthèse qui se fume dans les e-cigarettes, là. Il s'appelle Pète ton crâne. Voilà. Et j'ai vu que ça titille la curiosité de certains, là. Il y en a qui connaissent, c'est pour ça? Ouais, Samuel, est-ce que tu pourrais parler de Pète le crâne, là? J'ai vu, là. C'est infernal, ce truc. Ah, ça connaît, ça connaît. Ah, tu travailles en boutique de cigarettes électroniques? Oui, mais c'est illégal, hein. C'est illégal, c'est pas vendu dans les bars tabac, ça. Hein. Je crois, hein. Si, attends, c'est autorisé. C'est légal, ça? Bien plus concentré que le cannabis naturel, le pète ton crâne ou Bouddha Blue fait de plus en plus de dégâts. Attends, c'est autorisé? Cette drogue, non, c'est marqué drogue. Non, c'est une drogue, c'est une drogue. C'est illégal, ouais, on est d'accord. Ok. D'accord. M'a fait peur. Non, je me suis posé la question ce matin. Ouais, c'est quoi ce nom? Je sais pas. Je sais pas qui a baptisé ça. Sarah, bordel, arrête de dire des bêtises. Pète ton crâne, aussi connu sous le nom question gouvernement, gagine, la blague est validée. Ok. Donc après les fauteuils roulants. Mais d'où vient l'argent? Et pète ton crâne, on ira sur 6. L'éducation sexuelle. Ah, j'adore ce sujet parce qu'à chaque fois, voilà, on a toujours, non, c'est pas dans l'IB, non, c'est dans la Croix. On a toujours sur ces sujets des gens qui parlent très très vite pour dire plein de bêtises. Hein. Oui, c'est vrai. Je trouve que le projet prévoit d'en parler beaucoup trop aux petits, c'est bien trop tôt, et puisque c'est vraiment le rôle de l'école. Alors, il y a les mecs qui ne savent pas du tout ce qu'il y a dans le texte, mais bam! Ça part dans le chat, là, bam, bam, bam. Ouais, j'ai rien lu, j'ai pas bossé le sujet, mais j'ai un avis quand même. Ah bon? T'as un avis, mais t'as pas lu le projet de loi? Ouais, mais moi je trouve que voilà. À chaque fois, on se régale. Alors nous, on fait autre chose. On va lire ce qu'il y a vraiment dans le projet, puisque il a été voté. C'est la une de la Croix ce matin. L'éducation sexuelle au programme. Après 2 ans de travaux, le programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité a été détaillé hier. Voilà. Donc ça, on se penchera sur ça, mais avec un peu de temps, en prenant le temps de comprendre. Et on se mettra peut-être en colère, mais après avoir vu ce qu'il y a dans le texte, quoi. Un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et la sexualité. Donc déjà, ça parle pas que de sexualité. Bon, hein, a été publié jeudi au bulletin officiel. Donc ça, bon, ça s'applique, quoi. Après 2 ans de travaux, 3 séances par an sont organisées de la maternelle au lycée à partir de la rentrée de septembre prochain. Bon, si c'est vraiment appliqué, parce qu'après ça, il faut des moyens et tout ça. Ce programme a suscité de vives réserves, en particulier parmi les catholiques. Voilà, on se penchera sur ça. C'est la Croix. Et j'espère que vous attendrez la fin de la lecture du truc pour vous positionner, plutôt que de parler de ce que vous avez entendu au café la veille, Roger, après 2 petits blancs, qui disaient « Ouais, vraiment, ce texte, c'est dégueulasse. » Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Page 7. Ah ouais, gros dossier sur l'IA. Gros dossier sur l'IA. On finira avec un énorme dossier sur l'IA. Je vais vous parler de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA. On commence, parce qu'il y a, je sais pas, il y a un sommet qui arrive en France, je sais pas quoi là. Justement, je vais comprendre ça avec vous. Je n'y comprends rien. C'est dans Le Monde, page 15. On commencera. Ah, Le Monde, c'est vrai que il faut ruser pour vous l'ayez. Je crois qu'il faut débrancher et rebrancher. Ouais, allez, on parlera de Mistral aussi. Hop. Parfois, ça marche. Ça marche? Le monde, il bug en ce moment. Marrant, hein? En ce moment, le monde bug. Petit peu. Parce qu'il se passe. Certains ont la ref? Ok. Donc là, j'ai réussi à le rebrancher. Voilà. Il y a une lente adhésion et un impact incertain. Moins d'une société française sur deux a investi dans cette technologie en 2024, 72% dans le monde. Quoi, il y aurait un retard dans l'intérêt à l'IA dans les entreprises françaises? Bon, on verra ça dans le monde. On commencera avec ça. On commencera avec ça parce qu'il y a plein de choses sur l'IA ce matin. Après, par exemple, on ira lire dans les échos, page 14, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. C'est où ça? Les échos, il y a des pages. Et vraiment, tu as une journée, tu sais pas quoi faire de ta journée, tu achètes les échos, hein, tu en as pour la journée. Hein. C'est un journal qui est riche d'infos. Quoi. Framboise me dit, je confirme, en France, les boîtes sont frileuses à investir dedans, ne savent surtout pas comment. Bah, moi, je comprends rien. Je suis comme eux. Vous allez tout m'expliquer. Page 14. C'est pas page 14? Ah! Grosse interview. Hein. Anne Bouvrol, envoyée spéciale du sommet pour l'action sur l'IA. C'est le truc qui arrive en France, là. Hein. Excusez-moi, je suis en train de lire un message. Donc, il y a un truc qui arrive. Et donc, voilà, cette dame, c'est la présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure, c'est quand même la classe. Et Anne Bouvrot, la dame, est l'envoyée spéciale du président pour le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et en fait, elle dit, nous ne sommes qu'au début de la révolution de l'intelligence artificielle. Moi, qui maîtrise pas bien le sujet, ben, je pense que je vais apprendre plein de choses avec Madame Bouvrol. Ça, c'est dans les échos. Donc les échos, c'est page 9. Et après, on ira page 24 dans le même journal pour parler de Mistral AI. Ça, c'est l'AI française, ça. C'est la France, mesdames et messieurs. Regarde. Mistral AI, à l'assaut, c'est en bas, là, de ChatGPT et DeepSeek sur les smartphones. Hein, avec merci Bakoun, avec la pépite française de l'IA qui lance une appli mobile pour iPhone et son équivalent sur les appareils Android. Il paraît que c'est bien Mistral. Hein, Mistral, c'est peut-être une appli gagnante. C'est mieux que Lucie en tout cas. Voilà, Mistral gagnant, tout le monde a la ref. Ok. Et on se penchera sur le nouveau plan du gouvernement pour doper l'IA en France avec les échos. Ouais, Mistral, c'est français. Mistral, c'est français. Bien sûr. Ah. Il y a Sharky qui dit c'est nul. Ah bon, moi, dit que c'était bien, moi. Est-ce que Mistral met des vents quand je lui pose des questions? Je valide la blague, Yveline. Je valide. Ok. Est-ce que c'est tout sur l'IA? C'est pas sûr. Là, on est avec les échos. 10 et j'ai du 11. Ouais, on ira plus loin sur Mistral, l'AI française, dans le Figaro, page 28. C'est pas mal, hein, c'est français. Voilà, regardez. Bon, quasiment une page. Mistral AI part à l'assaut du grand public en lançant son assistant sur mobile. Arrivée de DeepSeek, hein, le chinois dont on a beaucoup parlé ici. Niffelberg, en fait, c'est une IA française. Voilà. Et ici, on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Arrivée de DeepSeek, contrat, rumeur sur la bourse. Le patron de la start-up valorisé 6 milliards d'euros. Quoi ? La boîte, elle vaut 6 milliards d'euros ? La vache ! Mais c'est énorme. Merci Sisoylai. Merci Pakoun. J'avais pas vu Pakoun. Merci Culotte Courte, comment vas-tu? Merci Mini Moonster. C'est pas possible. La boîte, elle vaut 6 milliards d'euros? Ok. Et ils disent, c'est encore une start-up, ça, à 6 milliards? C'est que dalle, en fait, me dit Spawny. Ah bon, je connais rien. Je sais pas, ça me paraît énorme, moi. Il y a Adurnam Gambler qui dit Mistral, c'est français, ça a le mérite de fonctionner. Après, en termes de performance générale, c'est bien en dessous de la plupart des autres IA présentes aujourd'hui. La vraie révolution IA concerne l'open sourcing de DeepSeek qui permet la commercialisation de produits utilisant l'IA sans débourser d'argent aux géants déjà présents et qui coûte beaucoup moins cher à utiliser qu'un chat GPT. Enfin, quand il marche, vu qu'il se fait attaquer en permanence. On sent qu'Adurnam a un tout petit peu bossé le sujet. Bravo à toi. Ok. C'est beaucoup quand même, 5 milliards, non? Alors, ça n'est pas tout à fait. C'est un peu en dessous du chiffre d'affaires de mon entreprise, hein, et de mes subs. Mais c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on finira avec ça? 11, ouais. On finira. Grosse page IA. Voilà. Ah, Il y a Nico Manga qui dit, je sais, ma blague est un petit peu dégueulasse. J'ai raté la blague, mais du coup, Nico Manga, je vais aller voir. Hein. Ah non, je suis en train de faire l'histoire de quelqu'un d'autre. Le mec qui s'auto-dénonce, il dit, ouais, j'ai fait une blague un peu dégueulasse là. Alors, Nico Manga, c'est quoi la dinguerie? Je crois qu'on n'a pas la voix. Ah, je l'ai pas la blague. Putain, j'ai même pas compris la blague. Je suis complètement con. Alors, j'ai pas compris la vanne. Du coup, j'ai pas pu la trouver dégueulasse. Chemical, what the fuck? Merci pour le 41e mois. Attention, 5 ou 6 milliards, c'est une estimation parce que l'entreprise n'est pas cotée en bourse encore. Okay, d'accord. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent, hein. Ah, Diona me dit, c'est normal, c'est mon métier, je suis dans le développement. Bah, on voit que tu maîtrises, quoi. Pas comme moi. Et Sam me dit, et Drive Drive Super me dit, bon, bah, Sam, c'est bien 5 milliards, mais les Émirats vont construire en France un data center géant et investiront 30 à 50 milliards d'euros. Drive Drive Super, j'ai l'impression que tu es un petit peu dans le truc, là. T'es dans le projet? Dry Dry, t'es dans ce projet à 30 à 50 milliards d'euros? Parce que ça m'intéresse. Moi, toujours à la recherche d'un petit budget pour développer mes émissions. 30-50 milliards, il y a moyen que tu me trouves une petite ligne là. Une petite ligne de budget là. Pour non? Salut Midori. Dry Dry Super, oui, j'ai mis des billes, tu vois, il est dedans, il est dedans. Ok, faut envoie-moi un DM, Dry Dry. On va se faire un petit café. C'est moi qui offre. Dis-toi que je ne suis pas allé en cours pour te regarder. Ah non, Tom, ah non, ça ne va pas aller, ça. Dis-toi que je ne suis pas allé en cours pour te regarder. Non, Tom, non, 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 non. Je fais le malin, là, le matin, avec les journaux, je raconte n'importe quoi. Et tu préfères ça à pas aller en cours? Ah non, 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 les cours, c'est important. Ah non, non. Ah non, non, non. Tom, franchement, je te là sans rire. Ne me préfère jamais, ne préfère rien d'ailleurs jamais à un cours. Je sais que c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours. Mais si t'es dans un cycle d'études, quel qu'il soit, va au bout, quoi. Même si c'est pas le bon cycle, si t'as envie de changer, fais les choses à fond, tout, hein? Toujours. Fais les choses à fond. Ok, Tom, je compte sur toi. C'est important pour toi. Moi, ça me fait plaisir, moi, que tu sois là. Mais ce qui est bien pour toi, c'est que tu ailles en cours, quoi. Ok? Vraiment, hein, je dis pas ça pour te taronner ou faire chier. Nouvel article dans le monde. Samuel Etienne, cet influenceur qui empêche les jeunes d'aller à l'école. Voilà, bam. Après, moi, j'ai des articles comme ça, quoi. Chier. Ah bah oui, c'est ça qui va se passer après. Et oui, l'échec scolaire, ça va être pour ma pomme encore. Qui encourage même, Dry Dry Super a raison. Qui encourage même. Cyril. Le melon du mec qui croit que le monde va faire un article sur lui chaque jour. Ben, à choisir, je préférais pas. Hein, parce que les deux, en 3 ans, ils m'en ont fait deux. Et franchement, aucun des deux, ça allait, quoi. Dommage, j'aime bien le monde, moi. Mais donc, je préférais autant pas tous les jours, quoi. Ouais, c'est possible. Allez, pour les deux étaient catastrophiques, quoi. Boubou, perso, j'ai arrêté mes études à cause de Monsieur Étienne. Oh! Catastrophe. Catastrophe. J'ai arrêté le travail à cause de Samuel. Oh là là, le chômage, c'est aussi moi. Moi, j'ai divorcé pour te regarder. Oh, oh non, non, l'explosion du nombre de divorces, c'est moi aussi. Je n'arrive pas à finir ma thèse et c'est à cause de Samuel, me dit Daddy Chocolat. Daddy Chocolat, joli. J'ai gagné l'auto grâce à Samuel Etienne, me dit Flynn. Mais j'ai tout perdu au poker. J'ai revendu ma maison pour payer le stream, me dit GPU, qui est même pas sub. Qu'est-ce que tu racontes? Mytho, va. J'adore. Le gars, il a vendu sa maison, il est même pas sub. Mytho, va. Merci Noeb, qui a pris son prime, qui lui a vendu sa maison, tu vois. Voilà. Mais pas. Il y a Virgile qui dit c'est son premier message. Oh, j'adore cet humour. Mes parents te détestent. Du coup, j'ai décidé de fuguer et de prendre mon indépendance pour Samuel Etienne. Prochain article du Monde. Voilà. Les jeunes en France, les jeunes fuguent. Voilà. Pour regarder Samuel Etienne. Ça va, Midori? J'ai eu un enfant grâce à Samuel Etienne. Oula, remake. Oula. Oula. Allez, on va commencer la revue de presse. Let's go. On va commencer avec. Ok, les démarchages. Oula. Non, là. Oula. Merde. Oula. C'est chaud, ça part en sucette. une du Parisien ce matin. Oh, je vous adore. Démarchage et arnaque, ces appels qui nous rendent fous. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Bah voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. D'être harcelé par des coups de fil intempestifs, une proposition de loi examinée en mars pourrait enfin endiguer le phénomène. Je suis modérément optimiste, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lisons. Quelle plaie ces appels ? Bon, je pense que tout le monde est d'accord, quoi. Samuel Etienne a guéri mon impuissance. Arrêtez, après, on va se faire engueuler de notre humour, là. Potache, là. Et après, il y a des articles, tout ça. Merci, Banger, pour le soutien. Je viens d'en avoir un, il y a 30 secondes. Je pense que pendant ce stream, tout le monde va avoir des coups de fil ou des SMS comme ça. Une proposition de loi prévoit donc d'interdire le démarchage téléphonique non consenti, une lueur d'espoir pour les Français importunés quotidiennement. Dossier d'Aurélie Lebel. Le démarchage téléphonique va-t-il enfin décrocher ? Joli. Joli, joli. Le démarchage téléphonique va-t-il enfin décrocher ? Voilà, ça c'est un article qui commence bien. Ça c'est bien écrit. Hein ? Est-ce qu'on peut féliciter Aurélie Lebel, s'il vous plaît ? En vrai, c'est joli, il fallait la trouver. Et laisser tranquille les consommateurs exaspérés à l'idée d'être dérangés 6 fois par semaine en moyenne, selon les statistiques officielles. Voilà. 6 fois par semaine, hein, on est dérangé. Ce sont les stats. C'est en tout cas l'objectif d'une proposition de loi votée à l'unanimité par le Sénat en novembre qui devrait obtenir le soutien des députés. Ah, a priori, ça va être voté. Amené à étudier le texte le 6 mars. Le principe, c'est quoi ? Interdire le démarchage téléphonique, résume le sénateur Jean-Pierre Verzelen, qui est à l'origine du texte. Pour les contacter, les consommateurs devront avoir, pour être contactés, les consommateurs devront avoir une démarche active auprès des entreprises. Ce sont les consommateurs qui vont autoriser les entreprises à les contacter et pas l'inverse. Voilà. Et ça pourrait rentrer en vigueur dès cet été. Cyril me dit, moi je trouve ça génial que chaque mois il y a une nouvelle proposition de loi pour interdire ce qui est déjà interdit. C'est vrai. Au bout du fil, on entend déjà les soupirs de soulagement. Ah oui, donc la petite blague téléphonique, elle se poursuit. Hein. Au bout du fil, on entend déjà les soupirs de soulagement. Okay, d'accord. Les appels publicitaires parfois frauduleux que reçoivent les Français leur hérissent le poil. Voilà. Bon, il y a des chiffres. Ça, vous n'avez pas très. Voilà. Bon, ça énerve tout le monde, quoi. Ah, effectivement, comme le disait le chat à l'instant, des tentatives pourtant pour réguler ce harcèlement marketing ont déjà été lancées. En 2020, il y a une loi qui imposait à partir de 2023 de limiter le démarchage aux seuls jours de semaine. Hein, et l'interdit de 12h à 13h. Le déjeuner, c'est sacré. Merci Tony pour le prêt. Pourquoi n'est-on pas allé plus loin ? Bonne question. À cause de l'emploi. Pourquoi on n'est pas allé plus loin ? À cause de l'emploi. Hissé comme un drapeau rouge par les professionnels du secteur. Il faut dire qu'en France, environ 50 000 salariés travaillent dans ces centres d'appel. Le vote d'une telle loi pourrait, selon la Fédération de la Vente Directe, ralentir le développement commercial d'entreprises dont dépendent 150 000 emplois. Le chantage à l'emploi. Et eux, donc la Fédération de la Vente Directe, il dit, de toute façon, cette loi, le texte va revenir, n'empêchera pas des millions de Français d'être dérangés par des appels qui ne sont déjà pas dans la légalité. Parce qu'il y a des accès, Il y a des appels qui sont intempestifs, mais qui sont aujourd'hui légaux, et puis il y a les illégaux. Aucun chiffre ne permet, en effet, de savoir combien d'appels non désirés se révèlent être en fait des arnaques. C'est ça dont ils veulent parler, hein, les arnaques. Mais elles sont nombreuses. Les appels en 06 ou 07, les offres pour des panneaux solaires ou les sonneries qui s'arrêtent quand vous décrochez utilisent tous le filon de la prospection commerciale pour soutirer de l'argent à ses victimes. Oui, parce qu'il y a deux choses, je suis en train de comprendre le sujet. Dans les appels intempestifs, il y a des appels qui sont légaux. Il y a des boîtes qui veulent vraiment vous vendre des trucs, mais le coup de fil, t'en peux plus, quoi. C'est l'opérateur qui te propose de changer, l'opérateur, etc., quoi. Donc ça, c'est chiant, mais c'est légal aujourd'hui. Voilà. Et puis après, il y a les mecs qui veulent t'arnaquer. Donc c'est la double peine. C'est un, t'as pas envie qu'ils t'appellent, et deux, en plus, c'est une arnaque. Voilà. Et comme l'ARCEP, le régulateur des télécoms, le rappelle, cette loi ne luttera pas contre les appels et messages frauduleux, parce que eux, ils n'en ont rien à fiche, hein, qui ne respectent déjà pas le cadre en vigueur, et dont la pratique est en hausse ces dernières années. Voilà. Oui, donc là, en fait, ouais, le texte qui arrive, c'est pour encadrer le démarchage légal. C'est pour qu'il y ait moins de démarchage illégal. Pour lutter contre le démarchage illégal des arnaques, bah là, c'est un truc de police, quoi. Et d'ailleurs, le rapporteur du texte dit, après, il faut savoir ce que l'on veut, le gouvernement doit se donner les moyens de multiplier les contrôles, d'autant que nous prévoyons d'alourdir des peines, ce qui pourrait être dissuasif. Donc là, c'est plus au niveau technologique, voire judiciaire, quoi. Le mécanisme d'authentification des numéros, le fameux MAN, je découvre ça ce matin, moi, déployé depuis quelques mois sur les fixes et depuis début janvier sur les mobiles, devrait donner un coup de main dans la chasse aux fraudeurs. Il permet aux opérateurs de bloquer un appel s'ils usurpent un autre numéro, comme c'est le cas avec les arnaques aux faux conseillers bancaires. Désormais, la quasi-totalité des 200 opérateurs téléphoniques qui utilisent le réseau tricolore sont connectés les uns aux autres pour authentifier les appels entrants et les couper si besoin, sans même que le client appelé s'en rende compte. C'est un système qui permet aux opérateurs de bloquer un appel s'ils usurpent un autre numéro. Il y a un truc qui est en place. Sauf que les escrocs sont inventifs. Bah oui, bien sûr. Aux États-Unis, de petits opérateurs ont participé à une vaste escroquerie en certifiant l'origine d'appels émis par les démarcheurs fraudeurs. Voilà. Voilà. Puis il y a une dame qui dit c'est épuisant, elle n'en peut plus. Là. C'est une infirmière, je crois. Une assistante maternelle, elle n'en peut plus d'être dérangée pendant qu'elle bosse. Ouais. Bon, bref, on n'a pas fini, quoi. Je vous lis. C'est atroce, me dit Bashroom. J'ai 3 appels par jour de manière complètement aléatoire. C'est fou, ça. Pardon. Le texte va encadrer 10% des appels. Bah oui, j'ai l'impression, ouais. C'est ce que me dit Desson aussi. J'ai le sentiment que les appels illégaux sont la majeure partie des appels. Je reçois 2 à 3 appels par jour, dit ping call qui raccroche direct quand tu décroches. Je les ai pas ceux-là, moi. Moi, j'ai beaucoup de SMS. Hein. Votre carte vitale va expirer, le livreur n'a pas pu déposer le colis dans votre boîte aux lettres, ça tombe bien, j'ai pas de boîte aux lettres. Tu vois, ça, moi, j'ai beaucoup de ça, moi. Juste Maria me dit, moi j'ai travaillé dans un centre d'appel. Le truc, c'est que si on ne répond pas au premier appel, on peut rappeler jusqu'à 6 fois. Ce qu'il faut répondre dans ces cas-là, c'est de leur dire gentiment, on n'est pas obligé de les insulter, de supprimer le numéro et de ne pas le communiquer. J'ai pas de boîte aux lettres. J'ai pas de boîte aux lettres. Quelqu'un me dit, comment ça t'as pas de boîte aux lettres ? J'ai pas de boîte aux lettres. Merci JK. Merci à toi, Place. Merci encore, Tony. Bloctel et Orange Téléphone marchent bien pour les appels, mais pas pour les SMS, me dit Kao Kokung. Je suis en train de faire un rototo, j'ai pas allongé ce matin. Moi aussi, comme Rennes, j'ai pris pour habitude de ne plus décrocher le téléphone quand je ne connais pas le numéro. Ça, je ne le fais pas, jamais. Moi, j'ai jamais de démarcheur téléphonique parce que je ne décroche jamais un téléphone dont je connais, je sais pas qui c'est. Mais jamais, 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 jamais. Si c'est important, je me dis, la personne laisse un numéro. Je ne décroche jamais, jamais, jamais. Mais jamais. Sauf quand j'attends un paquet super important pour un truc de taf. Et là, je suis coincé et je décroche. Et une fois sur deux, évidemment, c'est pas la personne. C'est pas forcément du démarchage, mais c'est, je sais pas, souvent quelqu'un du taf qui pour un truc qui peut attendre, quoi. Je lui dis, je suis en live, là, je suis en live. Vous êtes plusieurs à me parler d'une appli qui s'appelle Bigone. Auxense, moi j'utilise Bigone pour bloquer le numéro, j'ai pas de problème. Alors il y a des problèmes aussi au niveau des fichiers. French Guillot, et c'est pas le premier commentaire qui me dit ça dans le chat ce matin. Depuis que j'ai rempli mon profil France Travail et que je postule activement, j'ai énormément d'appels, j'en avais aucun avant, quoi. Attention au spoofing aussi dont parle Motion. Spoofing, c'est des gens qui font apparaître un numéro sur ton carnet de contact, mais en fait, ce n'est pas la vraie personne. Ils arrivent à se faire passer pour quelqu'un, quoi. Les grosses arnaques financières, notamment, c'est ça, hein. En fait, un numéro appel, et en fait, tu as l'impression, c'est le numéro, c'est pas l'impression, c'est le numéro qui s'affiche, c'est le numéro de ta banque. Ça peut être même le numéro de ton conseiller bancaire, quoi. Enfin, c'est ouf. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire ça. Et en fait, non. C'est pas ton banquier. C'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt et comme c'est Brad Pitt, tu vas lui filer de la thune. Eh oui. Donc méfiez-vous. Voilà. Bon bah c'est voilà. Bon bah donc il y a une loi qui arrive, mais comme vous l'avez compris, je pense que ça ne va pas résoudre le problème, quoi. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de la tech des opérateurs que ça peut régler le truc. Merci Alexandra pour ton commentaire. Les banquiers n'appellent quasiment plus sans raison connue au préalable, exactement. Le banquier, s'il vous appelle, faut au moins qu'il vous ait envoyé un mail avant en vous disant, tiens, je vais vous appeler tel jour pour parler de ça. On en a parlé longuement hier, mais t'étais pas là, Dave Bowman, mais qui rappelle, il a raison, Dave Bowman, ne rigolez pas pour cette histoire de Brad Pitt, ça peut arriver à tout le monde, ça s'appelle une emprise mentale. Hier, je me suis fâché contre les gens qui se moquaient de la victime, qui est une victime, Victime. Voilà. Donc là, effectivement, j'aurais pu me passer de ce trait d'humour. Ouais, t'as raison. Carrément. Je peux pas te donner tort, t'as 100% raison, mon ami. Après, on va passer à la TVA. C'est en suspens. Mais non, c'est toi qui as raison, Dave. C'est suspendu, le truc là qui inquiétait tant. Hein. Un sursis pour les auto-entrepreneurs. Prenons le temps de lire. Merci pour tous les messages des gens qui me parlent de quotidien hier soir. Le budget 2025 prévoyait de donc revoir les règles d'application de la TVA à leur désavantage. Face à la fronde, le gouvernement suspend la mesure. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Bon, sauf pour le budget de l'État, parce que s'ils voulaient faire rentrer des centaines de millions d'euros avec ça, quoi. Virgin Fire, attends, on va lire l'article. Je n'ai pas dit que c'était terminé le truc. Merci. Oh, citron violet, le raid de fou! Merci. Je n'ai pas dit que c'était une victoire, j'ai dit que c'était suspendu. J'ai dit que c'était une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une victoire, effectivement, c'est quand c'est définitif. Donc, c'est une bonne nouvelle. La suspension, je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas dans le mot suspension. Suspension, 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 c'est suspendu, ça n'est pas annulé. Voilà, c'est les mots, c'est important quand même, les chouchous. Erwan Benzet, Vincent Verrier écrivent dans Le Parisien ce matin. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie, lui-même, au JT de. C'est lui? Éric Lombard, perdu, ça change sans arrêt le gouvernement. Au JT de 20h hier, preuve que la polémique a été prise au sérieux, Éric Lombard a annoncé la suspension de la baisse du seuil d'exemption de la TVA. Merci, Citron Violet. Le temps d'une concertation. Suspension, le temps d'une concertation. Depuis 2 jours, la fronde montait contre cette mesure inscrite dans le budget 2025 et passée totalement inaperçue. Ben, nous, non, on en a beaucoup parlé. Celle-ci prévoit en effet, à partir, je le rappelle, la loi du 1er mars, d'unifier les règles d'application de la TVA pour les micro-entrepreneurs, qu'on appelait autrefois les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, il est prévu deux seuils d'exonération pour les prestations de services, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires, tu n'avais pas à t'occuper de la TVA, de la collecte et éventuellement de son paiement. Hein, il y avait un plafond de 37 500 euros pour les prestations de services, comme pour les créateurs de contenu par exemple, et 85 000 euros pour les activités de vente de biens. Voilà. En dessous de ces montants, ils pouvaient établir des factures avec une TVA à 0% sans rien reverser à l'État. Le projet qui a été adopté, puisque c'était dans le projet de budget et adopté par 49.3, le projet, c'était que ces deux seuils ne devaient en devenir qu'un et descendu à 25 000 euros seulement. Ça changeait tout. Ceux qui dépassaient les 25 000 euros de chiffre d'affaires devraient, à partir de là, tout de suite quasiment, facturer la TVA à leurs clients, donc 20% plus cher avant de la reverser. Objectif de cette réforme, soutenue notamment par les fédérations d'artisans, réduire les distorsions de concurrence entre les professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Ok, bah c'est très très clair, hein. Voilà, ils voulaient que les petits, les tout petits, aient les mêmes règles que ceux qui sont un peu moins petits, quoi. Bon, ça a le mérite d'être clair. Sur un plan comptable, l'abaissement de ce seuil devrait rapporter, c'est beaucoup d'argent, hein, 700 millions d'euros de cette année, c'est beaucoup d'argent. J'adore parce que depuis hier, il y a des gens qui nous expliquent, mais Samuel, tu n'as rien compris. Ils vont pas payer la TVA, hein, ils vont juste la collecter pour l'État. Voilà. Et donc c'est transparent. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est supposé qu'une entreprise dépense autant qu'elle vend. Donc ça refait zéro de résultat, ce qui n'est pas tellement intéressant. À partir du moment où tu gagnes un peu plus que tu dépenses, sinon l'entreprise elle va couler très très vite, eh bien forcément, il y a une partie de la TVA que tu vas devoir de payer à l'État. Et de un. Et de deux, c'est en plus du travail, hein, administratif, la paperasse, voilà, à faire pour toi, un temps que tu peux peut-être passer à faire autre chose professionnellement, sinon c'est ton comptable qui s'en occupe, hop, et il faut le payer. Voilà. Et par ailleurs, l'État avait calculé que ça allait leur rapporter la première année 700 millions d'euros et la deuxième 800 millions d'euros. Donc les gens qui disent ça change rien, les petites entreprises allaient payer rien de plus, ben ils viennent d'où les 700 millions d'euros? Des fameux arbres qui font pousser l'argent dont on a parlé tout à l'heure. Eh oui, autant Mounir. Donc arrêtez avec le « mais Samuel, tu n'as rien compris, c'est une collecte de TVA, ça va rien leur coûter ». Arrêtez enfin. Même l'État reconnaît que ça allait leur rapporter 700 millions d'euros. Donc c'est quand même assez simple à comprendre. Hein? Merci Cyril. 800 millions même dès l'année prochaine. 200 000 micro-entrepreneurs étaient concernés, sauf que, d'où la suspension, elle a soulevé la colère du secteur de la micro-entreprise et de ses représentants, qui craignent en effet que les petites entreprises concernées ne doivent rogner sur leur marge pour préserver leur compétitivité. Parce que pour pas rogner sur leur marge, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est d'augmenter leur facture. Hein. Et évidemment, il n'est pas sûr que les clients soient d'accord. Opposée à ce dispositif, LFI, qui a voté une motion de censure à l'encontre du budget, a prévu de déposer une proposition de loi pour complètement abroger la mesure et pas seulement la suspendre. Le gouvernement a donc décidé de faire au moins momentanément marche arrière et de suspendre la mesure. Donc, ils ont annoncé une concertation pour ajuster cette mesure si nécessaire. Et pendant le temps de la concertation, la mesure sera suspendue. Pour l'instant, elle ne s'applique pas. On aura le temps du dialogue, ils disent. La question, c'est est-ce que le gouvernement est prêt à se priver des 700 millions d'euros qu'ils espéraient récolter avec ça. Le sujet est super clair à suivre, à surveiller cette histoire. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'ait eu ce gouvernement. D'ailleurs, c'est ce que dit le Figaro ce matin. Je vais ouvrir l'édito. Voilà. Le Figaro qui dit en sa une ce matin ce qu'il pense de cette loi, c'est inutile et dangereux. Putain, je ne vous ai même pas mis la capture. Hop, c'est en une du Figaro ce matin. Le grand filet fiscal du budget 2025 ne se contente pas des gros poissons, hein, les grandes entreprises qui vont devoir payer une surtaxe, là, on en a déjà parlé. Il attrape aussi les petits, hein, les artisans, les coiffeuses à domicile, les brocanteurs, les chauffeurs de taxi, ces modestes auto-entrepreneurs qui se pensaient à l'abri du percepteur. On peut dire modeste, puisque c'était en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires, on est d'accord, hein, on est d'accord, il y a zéro débat là-dessus. Ces modestes auto-entrepreneurs qui se pensaient à l'abri du percepteur ont failli découvrir les joies de la TVA qu'ils auraient dû facturer à leurs clients pour le compte de l'État. Jusqu'à ce que le ministre de l'économie fasse machine arrière. En y regardant de près, on se demande quelle mouche a piqué le gouvernement pour laisser passer pareille mesure qui a provoqué, aux surprises, une levée de bouclier chez ces sans-culottes de l'économie. Cette brillante idée, censée rapporter 400 millions d'euros parmi les 50 milliards recherchés, concentrait en elle tout ce qui ulcère la France. Voilà. Elle touchait la fiscalité, la substance la plus infâmable dans un pays devenu allergique à l'impôt. Elle concernait une population souvent précaire, qui peine à joindre les deux bouts, ne bénéficie que d'une faible protection sociale. Ouais. En su d'une bonne dose de paperasserie supplémentaire, il y a aussi cet aspect-là, ils étaient demandés à ces petits entrepreneurs de faire accepter à leurs clients 20% de hausse sur leur facture, ou, s'ils n'y parvenaient pas, hein, si les clients ne voulaient pas payer plus, de rogner sur leurs revenus. N'y avait-il pas plus urgent de mettre en danger le fragile équilibre économique des gens qui gagnent en général à peine plus que le SMIC? Eh oui. Voulait-on les pousser dans les bras du RN ou du LFI qu'on ne s'y prendrait pas autrement? Cette faute politique se double d'une erreur économique. Le statut d'auto-entrepreneur, si imparfait soit-il, est incontestablement parmi les innovations les plus heureuses de ces dernières années. 3 millions de Français l'ont adopté, préférant tenter leur chance en se mettant à leur compte qu'attendre oisivement les aides sociales. Au moment où l'activité et l'emploi stagnent, le gouvernement n'a rien à gagner à les dissuader de se lancer dans l'aventure ni à les fragiliser. Il n'est pas dit par ailleurs que les finances publiques y auraient trouvé leur compte. Le nouveau seuil de déclenchement de la TVA aurait toutes les chances d'agir comme un repoussoir et d'alimenter à gros débit la grande caisse de l'argent au noir. Voilà. Oui, bon, moi je trouve que ce n'est pas une très bonne mesure, mais ça n'est que mon avis. Manifestement, je ne suis pas le seul. À vous, Cognac J. Non, à vous la parole. Version Fire, dans le communiqué, ils disent bien qu'ils ne remettent pas la mesure en cause, ils réfléchissent juste à la repousser. Je l'ai dit à peu près 15 fois, Version Fire. Là. Bon, alors 16 fois. Donc je dis depuis le début que c'est une suspension, que ça n'est pas annulé, que c'est une suspension, que ça peut revenir. 16 fois. Ne me le fais pas dire une 17e fois, Version Fire, parce que je vais balancer ma tablette à travers le studio. Là. Framboise, tout le monde est sage. Non, il y a Version Fire qui ça fait 17 fois qui me fait dire le même truc. Alors, pour être précis, Rem Ravat a raison, et vous êtes plusieurs à le dire, ça ne change pas trop pour les entrepreneurs qui ont des entreprises pour clients. Hein, parce que c'est effectivement plus ou moins transparent, mais là, effectivement, c'est plus de la collecte de TVA, puisque quand tu factures à une entreprise, quand tu fais un service, par exemple, tu vends un truc à l'entreprise, tu vas mettre la TVA à l'entreprise, mais tu vas pouvoir la récupérer, cette TVA. Voilà. Mais à supposer que tu aies de la dépense. Que tu aies effectivement de la dépense, parce qu'en fait, tu ne peux retrancher cette TVA que de dépense toi-même. Si, souvent, comme dans une activité de service, tu as des recettes et pas trop de dépenses, finalement, de matériel, de matières premières, etc., eh ben, là, même, tu peux, même en ayant des entreprises pour clients, ben, tu vas être bien de ta poche, quoi. Et Remra Vatario, c'est pire encore pour les gens qui ont des particuliers pour clients. Parce que là, bah, le client, il ne va pas répercuter la TVA. Lui, c'est un individu, il n'a pas de société, quoi. Et c'est là où le client, il va dire, mais moi, je ne veux pas payer 20% plus cher, quoi. Eh ouais. Ouais, on est d'accord. C'est pas très compliqué à comprendre, hein, en vrai. Bah, surtout pour ceux qui ont une micro-entreprise, qui connaissent bien tout ça. Salut Foxy, bienvenue dans la commu. Je vous lis. Ok. Bon, on enchaîne parce que j'ai plein de trucs à vous dire et puis je vais au ski à midi. Non, j'ai un Teams pour vous préparer un stream. Peut-être, j'ai pas accepté encore. À la montagne. C'est quoi cette action pourrie que j'ai pris là? Pff, ah, pas du tout. À la montagne. Peut-être. J'ai pas dit oui encore. Un stream, pas un strip. Un stream. Peut-être un stream raclette, ouais. Ouais. Donc ça, c'est à midi. Ok? Donc j'enchaîne avec, après la TVA, parce que c'est que le deuxième sujet de ce matin. Le 4, on parle de quoi là? Ah oui, les mirages français en Ukraine. Non, pourquoi à Tignes, non? Je sais même pas quelle montagne encore, je sais pas. Je sais pas encore. Merci Five, tu régales. Page 6, c'est les mirages, la guerre en Ukraine. Des mirages français dans le ciel ukrainien. De quoi s'agit-il? Le ministère des Armées a annoncé ce jeudi la livraison des premiers avions de chasse français à Kiev, qui s'en félicite au moment où elle subit la pression de Trump pour négocier la paix. Depuis ce jeudi, donc ça y est, c'est fait, des Mirage 2000 français volent dans le ciel d'Ukraine. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'armée de l'air, mais on est d'accord que ce n'est pas nos avions les plus récents et plus modernes, même s'ils ont été mis à niveau, je suppose. Je pense, notre must à nous les Français, je crois que ce sont les Rafales, si je ne dis pas de conneries, quoi. Non, on est d'accord, c'est un peu ancien. Mais leur cocarde tricolore est remplacée par les couleurs de la force aérienne ukrainienne et les pilotes sont ukrainiens. L'annonce de la livraison de ces premiers exemplaires sur les 6 avions de combat promis à l'Ukraine par Emmanuel Macron le 6 juin 2024. Donc en fait, c'est 6 max et là, on ne sait pas combien on a. 2, 3, 4, 5. Voilà. Le ministre des Armées n'a pas préciser le nombre d'appareils Mirage 2000 5F livrés à ce jour. De même, le lot total de 6 appareils sur les 26 Mirage 2000 qu'on a encore nous en France, hein, ça reste de bons avions. Ah oui, j'entends. Mais après, il faut qu'ils soient meilleurs que les avions russes, si je puis me permettre. Apparu dans un rapport parlementaire, n'a pas été officiellement confirmé ou démenti par le ministère. Voilà. Le président ukrainien a remercié le président Macron. De fait, dès les premiers mois de la guerre, d'invasion de la Russie, Kiev suppliait. Ses alliés de lui fournir des avions de combat pour se défendre contre le pilonnage par avions, missiles ou drones de ses infrastructures stratégiques, notamment énergétiques. Longtemps, Américains et Européens ont fait la sourde oreille, arguant du risque d'escalade, hein, liée à des équipements potentiellement capables de frapper en territoire russe. Poutine et ses sbires n'avaient alors eu de cesse de dénoncer une co-belligérance. Si vous donnez des avions à l'Ukraine, c'est que vous rentrez en guerre contre la Russie. C'était ça le message. Qui aurait justifié une riposte russe frontale contre les pays soutiens de l'Ukraine. Voilà. Au fil des mois, les tabous des Occidentaux sont tombés. Ces derniers ont fourni des chars lourds, des missiles de longue portée, mais le tabou des avions a résisté. Merci, Yomi Klumsi. Merci beaucoup. C'est. Voilà. Et ce, jusqu'au feu vert émis l'an dernier de livrer des chasseurs-bombardiers américains F-16 possédés par plusieurs pays européens, puis le Mirage français. Il aura fallu pour cela que Macron, après avoir misé sur un rappel à la raison d'une Russie qu'il ne faudrait pas humilier, prenne la posture du meilleur allié de l'Ukraine. Livraison d'avions français qui. Il fallait former les pilotes aussi. Non, mais au début, on ne voulait pas leur donner d'avions. Au début, on ne leur a pas dit on ne va pas vous filer des avions, vous n'êtes pas formés. C'est on ne veut pas vous filer des avions parce qu'on ne va pas vous filer des avions parce que sinon on va rentrer en guerre contre la Russie. Après, il y a eu la formation, bien sûr, mais c'est deux choses très différentes. Ça va, les Mirage 2000, c'est récent, c'est plus jeune que Sam. Cette livraison renforce le statut au moment où Kiev, en difficile posture militaire, subit la pression de Trump pour négocier la paix. J'ai pris une petite balle perdue. Un missile perdu même, tiré par un Mirage 2000. Dans son tweet, le ministre de la Défense mentionne la formation des pilotes pendant plusieurs mois en France, pilotes ukrainiens, mais ne donne pas davantage leur nombre. L'avion a été modifié afin de répondre aux besoins opérationnels de l'armée ukrainienne, notamment la pose de systèmes anti-guerre électroniques pour déjouer le brouillage russe. Quant à l'armement emporté, si l'armée française ne fournit aucune précision, aucune photo, il s'agira au minimum, selon le magazine Air et Cosmos, de missiles RR Mika au guidage infrarouge ou radar, détection par tout temps, Pour l'attaque au sol, le 2005F pourrait emporter des missiles de croisière Scalp ou des bombes guidées, mais l'armée reste muette sur le sujet. L'armée qu'on appelle la Grande Muette, ça n'est pas pour rien, bien sûr. Voilà. Il y a une interview d'un spécialiste, Xavier Titelman, qui est un spécialiste des questions de défense et qui analyse un peu tout ça. Par exemple, est-ce que ces avions vont donner l'avantage à l'Ukraine? Non. Pour renverser la table, il faudrait des missiles à plus longue portée et bien plus d'avions, au moins une trentaine ou une cinquantaine. Mais le taux d'interception des missiles russes va s'améliorer grâce au Mirage. Ça va sauver beaucoup de vies ukrainiennes. Merci beaucoup, Kiki de Jingle, pour ton message. Et félicitations à tous les deux, parce que je vois un PAX aujourd'hui. Bravo à tous les deux, je vous embrasse. Merci, félicitations. Ça va sauver beaucoup de vies ukrainiennes. Combien de chasseurs possèdent déjà Kiev? On estime qu'il possède une douzaine de F-16 opérationnels livrés par les pays de l'OTAN. Il devrait recevoir 12 Mirage 2005F de la part de la France. Je ne comprends rien parce qu'ils viennent de dire 6 max. Je ne comprends rien. L'annonce de la livraison de ses premiers exemplaires sur les 6 avions de combat promis à l'Ukraine. 6. Et le gars, il dit 12. Alors là, non, 12 Mirage 2005F de la part de la France. Non, c'est au début. C'est Macron a prévu 6. Et là, il y en aurait 2 ou 3. Je comprends pas. 12 en tout, 6 français? Non. 12 Mirage 2005F de la part de la France. Bon, j'ai pas l'info. C'est peut-être la TVA, c'est peut-être le hors-taxe, je sais pas. Ok. Il y a aussi la Grèce et le Qatar qui pourraient vendre leur Mirage 2000, par ailleurs. Les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Belgique ont promis de livrer une cinquantaine de F-16. Ok. Voilà. Ça va pas changer la donne, mais ça va les aider, quoi. Ok. Bon. On continue à suivre la guerre en Ukraine, bien sûr. Salut, Gougère. C'est trop bon, la Gougère. Je vois un message que je trouve très intéressant, auquel je suis incapable de répondre, moi. Il y a Padlar qui dit « Bonjour Samuel, bonjour tout le monde, salut Padlar. J'ai une petite question, qu'est-ce que tu penses d'une personne employée pour la fabrication de l'effort militaire? Un ami m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, me dis-tu, il avait une proposition très intéressante chez MBDA, et il a refusé car ne souhaitait pas participer aux dommages que pourrait créer son travail. » Ce que je sais, c'est que chez dans les jeunes générations, il y a de plus en plus d'interrogations sur le sens de ton travail et sur les valeurs de la société, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, quoi. Ils sont beaucoup plus exigeants par rapport aux générations précédentes. Ça, c'est un truc que les recruteurs, les RH, constatent, quoi. Donc, ce n'est pas très étonnant ce que tu me dis, mais je ne peux pas répondre à la place de ton ami, quoi. On va dire que c'est un choix très personnel. On en a parlé, Gougère, ouais, le rétropédalage de la TVA, on en a parlé, mais il y a 2 minutes, quoi. Félicitations, Blas Drogon. Je viens de rentrer du sport, trop content de pouvoir recourir après 4 mois de rééducation, ligament croisé. Ça doit être un bon moment. Vas-y doucement quand même. Hein. De rien, pas de là. J'ai déjà eu ce débat avec des collègues, me dit Bouillotte de Sleep. Après avoir entendu une collègue être très fière de partir dans une chaîne de production de missiles, moi, ça m'aurait pas motivé, les avis étaient très partagés. Malheureusement, écrit Hollandril, l'armée et les armes sont encore bien nécessaires pour nous défendre, on le voit avec les conflits partout dans le monde. Merci, coûte que coûte. Coûte que coûte qui sub. C'est joli, merci à toi. Ouais. Allez, on enchaîne. L'Ukraine, de toute façon, on en parle quasiment au quotidien ici depuis trop longtemps, hélas. J'espère que ce conflit s'achèvera bientôt, dans l'intérêt des Ukrainiens, bien sûr. Non, c'est bien de marcher, Rimec. La randonnée, c'est top. Oh, la chance! Il y en a qui préparent des Queen Yaman en ce moment-là, dans le chat. C'est beau. Je vous emmène maintenant du côté de. Ah oui, la question du handicap, très important. C'est quoi? C'est page combien dans le Parisien, ça? 10, je crois. Voilà. Bientôt, la gratuité des fauteuils roulants. Hop. D'ici la fin de l'année. Il devrait être intégralement remboursé par l'assurance maladie, a promis Emmanuel Macron ce jeudi. Ok, c'est une promesse, voyons ce qui va se passer. Est-ce que ça va être sans plafond, quel que soit le prix du fauteuil? Bon, c'est une bonne nouvelle, mais on va voir. Je vois déjà qu'il y a plein de messages qui se félicitent de ça, quoi. Comme le dit Flop, c'est sur une liste définie de fauteuils, pas tous, il y en a qui sont très très chers. Un fauteuil pour Jacques. Un fauteuil de foot pour pratiquer ma passion. On trouve aujourd'hui plus de 800 cagnottes en ligne en France, rien que sur le site Litchi, pour aider des personnes en situation de handicap à s'équiper d'un fauteuil roulant adapté à ses besoins. Bientôt l'histoire ancienne, s'interroge le journal, pour le million, c'est énorme, de personnes concernées. Ce jeudi, dans une vidéo publiée sur TikTok, Emmanuel Macron a confirmé que tous les fauteuils seront intégralement remboursés par l'assurance maladie d'ici à la fin de l'année. Tous. Tous. À voir. Engagement qu'il avait pris déjà en avril 2023. Un premier décret décrivant les catégories de fauteuils remboursables, ouais, c'est pas tous, les catégories de fauteuils remboursables, devrait être publié ce vendredi, donc on va en savoir plus aujourd'hui. S'en suivra une période de négociation entre les fabricants et le ministère de la Santé afin de fixer les prix limites de vente de fauteuils qui serviront de base de remboursement. Voilà. Ce ne sera pas remboursé n'importe comment, n'importe quel prix, évidemment. Aujourd'hui, un fauteuil manuel est remboursé à hauteur de 600 euros pour un coût jusqu'à 10 000 euros et un fauteuil électrique 5 200 euros pour un prix pouvant atteindre 50 000 euros. La sécurité sociale qui dépense déjà 300 millions d'euros, c'est pas mal quand même, dans le remboursement des fauteuils, a budgétisé pour la première année de remboursement intégral un surcoût de 160 millions, sachant que tout le monde ne changera pas tout de suite de fauteuil. Une promesse à laquelle n'osait plus croire Charlie, 27 ans, atteint d'une tétraplégie haute, le fauteuil électrique dont il a besoin coûte 35 000 euros, remboursé par la Sécu. Je suis en discussion avec mon assistante sociale pour faire le tour des aides disponibles, mais dans tous les cas, on ne pourra pas tomber dans un remboursement total, explique-t-il. C'est pourquoi sa sœur lui a proposé de lancer une cagnotte en ligne. Voilà. Et en quelques semaines, la famille a collecté 40 000 euros. Maison départementale de personnes handicapées, mutuelles, aides complémentaires par les entreprises, centres communaux d'action sociale, toute une série de dispositifs qu'on peut mettre bout à bout, mais c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Voilà. Et donc, c'est très intéressant qu'à l'avenir, il n'y a plus qu'un seul financeur pour en finir avec ce parcours du combattant administratif. Les associations de personnes handicapées se disent satisfaites, mais elles promettent de rester vigilantes sur la mise en œuvre de la réforme, c'est ce que je vous disais à l'instant. Est-ce vraiment toutes les options nécessaires, en particulier pour les personnes qui souffrent de maladies évolutives? Est-ce que ça va être bien pris en charge? Voilà. Et je vois que les fauteuils sportifs pour faire du sport pourront aussi prétendre au remboursement. C'est une question, c'est pour un ami. Est-ce que les fauteuils d'e-sport, qu'on appelle communément les chaises de gamer, peuvent être remboursés ou pas? C'est pour un ami. À votre avis? Peut-être pas. Hein. Pour les EHPAD, oui. Ah bon, on n'est pas très loin. C'est ma blague? Je t'ai piqué ta blague, Étienne? Oh, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je vous lis. Et on peut pas dire que les mutuelles font un effort sur le complément, me dit Sarah. Ouais. Est-ce que les mutuelles font des efforts d'une manière générale? Je pose la question, j'ouvre le débat. I'm l'OVNI, je suis tellement choqué que ce ne soit pas déjà le cas. N'étant pas dans cette situation, je trouve ça aberrant que ce genre de frais ne soit pas entièrement couvert. C'est parce que ça coûte des sous. Le siège gaming, tu l'as acheté avec ton entreprise? Non, ce Squagpo, c'est mon cadeau de Noël de mon amoureuse et de mon beau-papa. Voilà. D'autres questions? Bulldozo demande, ça dépend, t'es handicapé? Selon certains, oui. Selon certains, j'ai une maladie qui me fait parler très grossièrement sur Twitch. Beaucoup de gros mots. Voilà, un langage très fleuri. Vraiment, ça n'est pas possible. C'est mal, même, dirais-je. Donc, est-ce que ça rentre dans une forme de handicap? Je sais pas, pour le remboursement. Un peu la tourette, ouais. La vieillesse, un peu tout ça. La connerie aussi, un peu aussi. Donc, je peux. Si, non. Alexandra nous dit, qui est en situation de handicap, moi j'ai une maladie des jambes, t'as eu des fauteuils électriques, tu ne peux pas bouger les jambes, d'accord, et tu confirmes que c'est très très cher. Ok, bah oui, merci à toi. Et la presse en est émue d'ailleurs, oui Christophe, c'est vrai que la presse s'est émue de ce petit problème que j'ai là d'expression finalement. D'expression finalement. Et ça, il faut le souligner et c'est vraiment très très bien. Un aim aussi catastrophique sur Valorant, c'est forcément un handicap, c'est pas possible autrement. Ok. Marre. Vrai, elle était plutôt bonne. En vrai, elle était bonne. Alors, bon, voilà, en tout cas, pour ça. De suite, il prend mal. Ben non, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Excusez-moi, je suis sur un historique. Je me régale. Oh là, la régalade. En fait, vous n'êtes pas très nombreux. Hein. C'est très très peu de gens. Mais en fait, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Mais certains viewers, vous n'êtes vraiment pas beaucoup. Mais certains viewers qui ne valident pas le contenu ici, qui ne valident pas la démarche, qui ne valident pas mes valeurs, qui ne valident pas ce que je fais, rien ne va dans mes activités. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez? Pourquoi vous revenez? En fait, c'est une vraie question. Vous avez vraiment rien d'autre à faire? Il y a combien de chaînes en qui live actuellement en France, quoi? Je comprends pas ça. En ce moment, actuellement, il y a Tonton qui est excellent, il y a Shones, il y a Adil Rami, il y a Weeper, il y a Sir Thomas, il y a Poney Club, il y a Ninion, il y a Bastui, il y a Ken Bogard, il y a Yann, il y a Ici Japon Corp, il y a Sacor, il y a Flonflon, il y a Moment, il y a Bruno Universimu, il y a Chinou, il y a RMC Sport, il y a Frank Miller, il y a Monody, il y a Martin Martin, notre DJ préféré. Voilà, seulement ceux que je suis, tu vois. Pourquoi vous revenez, en fait? Mais pourquoi vous... Mais même, pourquoi... Si rien ne va, si... Pourquoi? Je comprends pas, en fait. C'est pas une obligation, genre, c'est pas remboursé par la Sécu, on vous paye pas pour regarder ce live, en fait. Je comprends pas, en fait. Je regarde si la personne auquel je pense m'a répondu ou pas. Quel intérêt? Attends, j'essaie de trouver la personne pour voir si elle a répondu. Je parle d'une seule personne là. Parce qu'en fait, du coup, je me suis tapé un petit historique, je fais waouh! Merci, attends, j'arrive, je cherche. Oh, j'ai perdu l'historique. Ouais, j'ai pas retrouvé le message, c'est pas grave. C'est bizarre. Merci Yann pour le soutien. Merci à Giganto. Je comprends, en fait, je comprends pas trop. Faites des trucs de votre vie, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a après ce sujet? On était donc sur les fauteuils roulants vers la gratuité. À suivre quand même, parce qu'à mon avis, ce sera pas. Il y aura des plafonds et tous les modèles ne seront pas remboursés. Donc ça, attention à l'application. Mais les assos ont l'air plutôt contentes. Après, je vais vous parler d'éducation sexuelle. Bon, là, c'est un sujet sensible. Ça crie facilement, ça crie très très vite avec la loi qui est passée et qui va s'appliquer très bientôt. Donc je vous demanderai ben, un petit peu de comment de quoi d'intelligence et puis surtout d'attendre de savoir ce qu'il y a dans la réforme avant de la critiquer, avant de donner votre avis qui est passionnant bien sûr, mais qui est beaucoup plus passionnant si vous donnez votre avis après l'information que avant. L'information, l'éducation sexuelle au programme, c'est la une de la Croix. Après 2 ans de travaux, le programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité a été détaillé hier. Merci à la Croix. Je n'ai pas encore lu complètement le dossier, mais je me dis que, connaissant le journal, ça va être plutôt fait intelligemment, quoi. Merci à Isestar. Beaucoup. Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité a été publié jeudi au bulletin officiel, donc ça rentre en application. Merci Bullseye pour le Prime. Après 2 ans de travaux, pour faire vite, il y aura 3 séances par an organisées de la maternelle au lycée à partir de la rentrée de septembre prochain. En général, c'est quand on prononce le mot maternelle que dans le chat, ça donne quoi? On va parler de Ken en maternelle. Ben Ken et Barbie, du coup. Ben Ken et Ken, Barbie et Barbie, enfin, comme on veut. Voilà. En général, c'est là que ça commence. Bah, attendez de voir ce qu'il y a dans le texte. Ce programme a suscité de vives réserves, en particulier chez les catholiques. En particulier, mais pas seulement. Voilà. Et comme vous avez beaucoup d'humour, je vois des... Quoi? Quoi? Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, publié au bulletin officiel, détaille des notions et compétences qui doivent être enseignées aux élèves. Les séances se feront de la maternelle... Quoi? À la terminale, en raison de 3 cours par an. Voilà. On y est. Ah! Le très scruté programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité a été publié ce jeudi 6 février au bulletin officiel. Oh! Après 2 ans de travaux. Ah! Oh, excusez-moi, j'ai un problème avec mes doigts. Oh! Voilà. Il s'agit, selon le ministère de l'Éducation, d'avoir un programme équilibré, qui s'appuie sur une expertise scientifique au sens large du terme, et qui fait l'objet d'une concertation qui a duré dans le temps et a permis d'aborder tous les sujets. Bon. Ce programme qui sera appliqué dès la rentrée prochaine doit permettre aux enseignants de mettre en œuvre une information à la sexualité. Celle-ci est obligatoire depuis le 4 juillet 2001, mais dans les faits très peu enseignée. Seuls 15% des élèves en bénéficient actuellement. Doit se faire en complément du rôle des parents et des familles des élèves. Donc ce n'est pas pour remplacer les parents, c'est en complément. Cette éducation est une démarche progressive, adaptée à l'âge et à la maturité des enfants. Je pense qu'on ne visionnera pas des films cochons en maternelle. Je ne crois pas. Insiste le ministre. Les questions d'ailleurs de sexualité n'étant abordées qu'à partir du collège. Alors déjà à ce moment de l'article, hein, les colères dans le chat que moi j'ai pu noter ou sur les réseaux sociaux ces derniers mois quand je parlais du sujet au moment maternel. Les questions de sexualité ne sont abordées qu'à partir du collège. Collège, COL, apostrophe, GE. OK? Les parents d'élèves seront informés des objectifs d'apprentissage annuel de cette éducation. On va tenir au courant les parents. Précise de manière succincte le texte. Merci Ice Rocket. En novembre dernier, alors qu'une version non définitive du programme avait été rendue publique, l'enseignement catholique et l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre déploraient que ce programme, tel qu'il était rédigé alors, reprenne le parti de se substituer à la responsabilité éducative des parents. Je vous vois avec des collèges et ça, j'adore. Ah, j'ai mis un apostrophe? Oui, c'est un accent grave. Ouais. Bon, c'est la vieillesse, c'est la fatigue. J'ai dormi 4 heures, c'est tout ça. Mais vous avez raison de vous moquer. Les syndicats enseignants s'étaient inquiétés de leur côté de possibles pressions exercées par les parents si ceux-ci étaient informés de la date et du contenu des séances. Ouais, c'est vrai que ça pose question. Hein, est-ce qu'on dit aux profs ou aux parents pour les avertir « Attention, demain, il y a histoire hein ». Non, on ne leur dit pas, on ne les prévient pas en particulier du contenu des cours, quoi. Ils peuvent le savoir, mais il n'y a pas une information a priori, ce qui semblait être le cas. Ces derniers seront donc informés en début d'année, voilà, des objectifs de cours des intervenants, mais sans forcément connaître les dates et le contenu des cours précis, ce que je trouve normal. Sinon, vous allez avoir certains parents qui allaient volontairement faire rater la journée d'école à leurs enfants. Si en primaire, les trois séances annuelles seront assurées par des professeurs des écoles, le programme n'indique pas pour les collèges et les lycées quels professeurs s'en chargeront. Eh bien, je vais vous l'annoncer, parce que c'est moi qui irai dans les collèges et les lycées pour parler de tout ça. Eh oui, voilà. Et c'est une information, c'est une annonce. Cependant, ces derniers, donc les professeurs, auront un rôle central dans la mise en œuvre du programme avec la possibilité d'intervenants extérieurs. Ce sera qui l'intervenant extérieur? Let's go, Monsieur Chibre, bien sûr. Oh, je vais encore avoir un papier. Dûment agréé et toujours en présence d'un membre du corps enseignant. À l'école maternelle, ah, l'école maternelle qui a fait tellement, tellement couler d'encre, hein, la fameuse éducation sexuelle en maternelle. Alors, quelle va être cette fameuse éducation sexuelle en maternelle qui, a priori, n'est pas du tout une éducation sexuelle? On y est. À l'école maternelle de 3 à 5 ans, le programme consiste à permettre aux élèves de connaître leur corps, de comprendre ce qu'est l'intimité. Hein, ce qu'on dit parfois aux enfants pour un petit peu hein, les protéger, tout ça, les mettre en garde. Ton zizi, c'est ton zizi. Personne touche à ton zizi. Hein, eh oui. Voilà. Ce qu'est l'intimité, identifier ses émotions, apprendre à exprimer son accord ou son refus. Non, tu n'as pas le droit de me toucher, mon corps, voilà. Ouais. Identifier les adultes de confiance de son entourage. Vivre l'égalité entre les filles et les garçons. Qui veut s'opposer à ça? Non, même pas tonton, disait-elle. Oui, même pas tonton. Parmi les exemples de mise en œuvre pour faire comprendre le concept de consentement sans aucune dimension sexuelle sont cités des ateliers participatifs autour de situations du quotidien. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Est-ce que je peux te prendre la main? Vous voyez, c'est très, 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 très doux. Quoi. On y va doucement. Quoi. Voilà. Je pense que si les gens s'étaient un peu penchés vraiment sur le texte, il n'y aurait pas eu toutes ces réactions de fou. Quoi. Arrêtez avec vos blagues. Je vous vois avec vos blagues là, depuis tout à l'heure. Là. Dès qu'on parle de zizi, là. À l'école élémentaire, la connaissance des différentes parties du corps va s'enrichir, donc à l'école élémentaire après, d'un vocabulaire scientifique précis, l'identification des différentes formes de famille, hétéroparentale, monoparentale, adoptive, recomposée, homoparentale, abordée dès le CP. En CE1 et CE2, les élèves apprennent à définir plus précisément ce qu'est le consentement, à comprendre que chaque personne a le droit au respect de son corps, de la part de toute personne, jeune ou adulte, et à prendre conscience qu'il existe des mots ou des gestes déplacés ou abusif. C'est bien. C'est bien. C'est bien. En CM1 et CM2, 9-10 ans, les principaux changements liés à la puberté, notamment les règles, sont abordés, ainsi que l'aspect néfaste des moqueries à ce sujet. C'est bien. C'est bien. Reconnaître le harcèlement dans ces différentes formes, agir pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, se sentir libre de ses choix pour une activité ou une passion, sous autant de notions au programme. Écoutez, je ne sais pas comment, ce que ça va devenir dans le cadre des classes, parce qu'il y a le programme, il y a comment c'est mis en œuvre, et par qui, et quand, mais l'intention, elle est OK. Elle est OK. Les propositions d'activité suggèrent entre autres, le truc a été bossé, quoi. On sent que, voilà, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Pas comme sur la TVA. Les propositions d'activités suggèrent entre autres d'étudier des extraits de loi, de définir ce que sont les violences physiques, psychologiques, verbales, sexuelles, dont l'inceste. Voilà. Les élèves seront aussi mis en garde sur les dangers de quoi ? De l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, mais oui, mais bien sûr. Et notamment l'existence d'images interdites aux mineurs violentes et choquantes. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce genre de cours, moi. Voilà, tout ça, tout ce que je lis là. À partir du collège, la notion de sexualité est progressivement appréhendée dans l'ensemble de ses implications. Attention, on va rentrer dans le vif du sujet. L'information donnée aux élèves comportant une approche positive de la sexualité, de même que la prévention des risques. C'est bien. Hein. En sixième, les élèves apprendront entre autres à savoir penser de façon critique, à comprendre ce que signifie la liberté d'être soi-même et le devoir de respecter les autres. Mais oui ! Dans le programme de 5e, 12 ans, apparaît la différenciation entre sexe biologique, genre et orientation sexuelle, ainsi que le fait de comprendre que tout acte de nature sexuelle non désiré constitue une violence sexuelle. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas un mot à enlever de tout ça, quoi. Les élèves apprendront aussi à savoir réagir lorsqu'une personne est victime de harcèlement ou de violences sexistes ou sexuelles. Et élaborer des stratégies pour se protéger des contenus interdits aux mineurs sur Internet. C'est très bien. C'est très bien. En quatrième, vous voyez, j'avais pas lu le dossier de la Croix ce matin, mais je m'étais dit, la Croix, ils vont faire un bon boulot là-dessus. En quatrième, 13 ans, les trois séances prévues doivent aborder la sexualité comme une réalité complexe pouvant faire intervenir le plaisir, l'amour, la reproduction. Alors, on fait ça parfois pour toutes ces raisons. Favoriser les choix responsables et protecteurs. En matière de santé sexuelle, relationnelle, étudier des représentations de la sexualité dans l'espace public en interroger la dimension égalitaire ou inégalitaire. Let's go. En troisième, 14 ans, les élèves apprendront à comprendre que le désir ne peut pas toujours être assouvi. Eh ouais, on ne peut pas toujours imposer son désir aux autres, même jamais. Et développeront leur capacité à maîtriser leurs impulsions, émotions et sentiments. Mais c'est très bien. Prévention des risques d'infections sexuellement transmissibles, contraception, cadre juridique du droit à l'IVG sont également au programme de cette classe. C'est très bien. On doit aussi aborder la question du mariage forcé, des mutilations génitales, des violences conjugales, du féminicide. Mais parfait. Hein, c'est aussi à ce niveau qu'apparaît le terme d'identité de genre, donc c'est à partir de la troisième, qui avait suscité des oppositions. Hein, et pas en maternelle. Ce dernier apparaît avec moins d'occurrence que dans des versions précédentes du programme. En revanche, le terme transphobie, qui était présent dans une ancienne version du programme, n'apparaît plus. Je le regrette. Pour les classes de lycée et de CAP, le programme invite au développement de connaissances plus précises ainsi qu'à l'approfondissement de la capacité du questionnement des élèves. À chaque niveau, les enseignants sont invités à utiliser l'étude de textes littéraires ou philosophiques pour aborder les différentes thématiques. Écoutez. La Croix, qui est un journal chrétien, un journal catholique, mais qui est un journal aussi qui s'intéresse à toutes les actualités et où travaillent pas que des croyants, mais des gens pas forcément croyants. Hein, c'est une question que j'avais posée à un responsable de la Croix que j'avais interviewé sur cette chaîne. Vous voyez, ça, on pourrait se dire qu'un journal chrétien catholique ait un regard très critique sur tout ça. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en Bretagne, à Saint-Vincent, Providence de la Palestine. On m'a pas trop parlé de tout ça. Hein. Vous voyez, le dossier est plutôt bien. Quoi. Salut Clamakine, bien sûr, assieds-toi, tu es bienvenu. Vous semblez OK. Je suis content de voir que ce sujet sensible ne provoque pas des polémiques stériles entre nous. À quand le même programme pour les parents? Très bonne question de remake, si je puis me permettre. Je vous lis un peu, parce que c'est un sujet important. En Belgique, nous rappelle Dev, Il y a un an, il y a des parents, c'est vrai. Ah zut, putain, j'ai perdu ton message. Attends, je vais le remonter. Je suis allé en bas du chat. La Belgique, la Belgique, la Belgique, je le retrouve. Voilà. Il y a des parents qui, en Belgique, sont allés brûler à l'école, l'école où vont leurs enfants, je me rappelle de ça. Parce qu'ils avaient décidé de comprendre le programme comme ils avaient envie, eux, de le comprendre, les parents, et pas comme il l'est réellement. Je me souviens très bien de ça, ouais. Framboise dit, c'est triste que ce soit nécessaire d'être appris, mais c'est bien, bien sûr. Courage aux profs qui vont devoir faire face aux parents. Courage aux profs d'une manière générale, de toute façon. Idivels. Samuel Etienne. Non, salut Étienne. Donc déjà, c'est Samuel. Plus de maths, plus de français. Et quoi? Et de langue. C'est ça qu'on demande à l'école. C'est ironique ou pas? C'est sous. Parce que plus de langue, c'est une espèce de vanne. Par rapport à plus de langues. C'est une espèce de blague, du coup, ou non, tu voulais juste qu'il y ait juste plus de maths et de français. Je crois que c'est. J'ai l'impression qu'il y a une petite blague cachée dedans, non? Plus de langues. Donc tu parles juste de l'anglais et de l'espagnol. Peut-être une petite vanne. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas le CAPA, donc j'ai un doute. J'ai un doute. Ce sera la rentrée de septembre, Eti Clem, je pense, ouais. Je sens que tu es très très pressé d'étudier tout ça, mais c'est la rentrée de septembre. Si tu as des questions, n'hésite pas, nous sommes là. Tu vois, il y a des témoignages dans le chat qui m'intéressent. T'es qui là? Ma situation perso, je ne suis pas issu d'une famille religieuse ni old school, mais le sujet de la sexualité, puberté, tous les sujets, j'ai surtout appris à l'école, j'ai 33 ans. Bon, bah moi, je suis d'une génération où les parents parlaient pas trop de tout ça, ouais. T'apprenais ça sur le tas, quoi. Et je suis pas sûr que apprendre ça sur le tas, avec des sources d'informations de qualité plus ou moins variées, ce soit l'idéal, quoi. Ouais. Pour les lycées privés aussi, bah, je vous rappelle que le programme de l'éducation nationale s'applique également aux lycées privés, hein. Sauf ceux qui sont hors, je sais pas quoi, là. Ouais. Et qu'ils ont aussi des comptes à rendre, hein. Bien sûr. Hors contrat. Hors contrat. Mais la plupart des lycées privés, des établissements privés, sont pas hors contrat, justement. Étienne me dit, j'en parle avec mes trois enfants depuis leur plus jeune âge. On est assez libéré là-dessus. Oui, faut que les parents dédramatisent le sujet, quoi. Ouais. Il s'agit pas d'en parler tous les matins au petit-déj, mais voilà. Ces cours existent, ne sont quasiment faits. Est-ce que ça va changer? Red Bull, très bonne question. Il y avait déjà des trucs prévus, moins avancés que ce texte-là, mais c'était quasiment pas enseigné dans les écoles. Donc là, c'est un vrai sujet. Quid, on finit là-dessus, quid de l'application de ce texte? Le texte, il est OK, on vient d'en parler ensemble. On est assez d'accord pour dire que c'est OK. Mais quid de son application, quoi. Allez, on enchaîne. Merci Lacroix. On va sur quoi maintenant? La croix. Quelle heure il est? Ça va. Ah, ça va. On avance bien. On bosse bien. Eh oui. Ben voilà. Sarah Sanderson, fun fact. Alors, du coup, pas fun. La première fois que j'ai eu mes menstruations, j'ai cru que j'avais un cancer par manque d'éducation sexuelle et tabou. Voilà, c'est pour ça que ce sujet puisse être abordé à l'école. Ben, je pense que pour certains enfants, certaines filles, eh ben, oui, ça va être salutaire. Et oui, bien. Parce qu'en fait, pardon, ben, y a pas de parents parfaits, on est tous des parents imparfaits. La mission est tellement incroyablement dure à relever qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents imparfaits, par contre, on est plus ou moins imparfaits. Et certains parents sur ce sujet sont très mauvais. Hein? Comme il y a des parents qui sont excellents sur ces sujets. Donc oui, donc là, c'est bien que finalement, cette éducation-là, cette information-là, elle vienne de plusieurs sources, parents et école aussi. Y a quand même une différence entre parents imparfaits et parents abusifs. Oui, Antoineux, cela va sans dire, mais mieux encore en le disant, d'accord. Ah, c'est intéressant ce que dit Some French. Ne serait-ce que pour aborder le sujet, en parler à l'école, ça retirera la forme de tabou qui peut exister dans certaines familles et contribue à libérer la parole sur le sujet. J'avais pas pensé à ça. C'est pas mal. Ok. Ah ok. Allez, je vous emmène maintenant du côté de quoi? Quelle information? On était sur la croix, on va aller sur mon septième dossier de ce matin. Ah c'est mon dernier, mais il est gros. J'ai plein d'articles sur l'IA, l'intelligence artificielle. Bon, j'avoue que moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un sommet qui arrive là, c'est l'occasion pour les journaux de faire feu de tout bois pour parler de l'IA. Je viens de faire un petit haïku. On va prendre le journal Le Monde. Merci à Ergo. Ah, Le Monde, il a du mal à charger en ce moment. Il faut que je débranche et que je rebranche. Bizarre. Le Monde qui file un mauvais coton en ce moment. Hop, on va rebrancher. Merci à Ergo. Merci pour le soutien. Hop. Le Monde avec le fait que la France, l'adhésion de la France à l'IA dans les entreprises, vous voyez, ça remarche. Eh bien, c'est un petit peu lent. On va commencer par ça. L'IA, une lente adhésion et un impact incertain. Moins d'une société française sur deux, une entreprise française sur deux, a investi dans ces technologies en 2024 contre 72% dans le monde. Donc, nous, au niveau de notre tissu économique, on serait en retard sur l'IA. Lisons l'article. Que ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont traversé 2024 sont en train de parler de l'IA dans l'entreprise, pour le meilleur ou le pire, lève le doigt. On a tous entendu parler. L'IA fait l'objet de dizaines de débats, de rapports, de colloques depuis son émergence. Le sommet, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, le sommet qui sera consacré à l'IA les 10 et 11 février à Paris, dont l'Inde assurera la coprésidence, est annoncé comme une grande messe mondiale. En présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, de chercheurs, de scientifiques, d'artistes, de représentants d'organisations non gouvernementales. Ça se passe où, ça? Je ne sais même pas. C'est juste pour voir où est-ce qu'il y aura des bouchons. L'engouement est d'autant plus palpable. Merci Camille pour les 3 abonnements offerts à la commu. Merci. C'est trop gentil. L'engouement est d'autant plus palpable que cette technologie est pleine de promesses. Elle pourrait doper la productivité de 1,5 point de pourcentage par an sur 10 ans. Et augmenter le PIB mondial de 7%. C'est énorme. Qui dit ça? C'est Goldman Sachs 2023. Concernant la France, elle pourrait stimuler le PIB de 0,8% à 1,3% par an. Et la stimulation, c'est important. Soit quasiment doubler le chiffre actuel de la croissance. Donc, a priori, ça peut être fou pour l'économie, quoi. Selon, cette fois, le rapport de la commission de l'IA remis en mars 2024. Sur le papier, tout ça est très théorique. L'IA représente donc un levier capable de sortir l'économie hexagonale de sa torpeur. C'est au Grand Palais? Ok, merci. La croissance ne devant pas dépasser 0,8% cette année. Merci, Yo. Mais pour l'heure, les entreprises françaises observent le phénomène avec une certaine circonspection. Moins d'une société sur deux a investi dans ces technologies en 2024, contre 72% en moyenne dans le monde. Indique une enquête de l'éditeur de logiciels Sage. Et encore, ce bataillon de pionnières est largement nourri de grands groupes ou de sociétés de la tech. Dans le tissu des PME et des TPE, qui représentent plus de 90% des sociétés françaises et produisent 60% de la richesse économique, hein, TVA, URSSAF, tout ça, la proportion de convertis est plus modeste. Moins d'une sur trois, 31%, avait déjà eu recours fin 2024 à l'intelligence artificielle générative, selon les chiffres publiés le 9 janvier par BPI France. Proportion 2 fois plus élevée qu'un an auparavant, mais qui reste faible. Donc en gros, dans les grosses boîtes, on commence à s'en servir, pas trop chez les petites, c'est ça, tout simplement pour résumer. Ceux qui, en tout cas, ont sauté le pas de l'IA sont enthousiastes. L'IA n'est pas qu'un gadget, on gagne en efficacité, dit un gars qui bosse chez. Dans une entreprise de 1 700 collaborateurs qui s'appelle Kereis. Ce courtier en assurance y recourt dans de multiples usages, que ce soit pour automatiser une partie des opérations, comme les sinistres, générer des réponses aux messages des assurés en utilisant les outils d'analyse sémantique ou encore limiter le nombre d'expertises médicales demandées aux clients. Bon, j'espère que c'est dans l'intérêt de l'assuré, tout ça. Parce que je sais pas, moi, je dis n'importe, je vais faire le vieux schnock, mais si j'ai un dégât des eaux à la maison et que je veux savoir comment réparer, être indemnisé, etc. et tout, et que c'est une IA qui me répond avec des trucs bien vagues, bien flous, bien pas adaptés, bien pas rassurants, je vais vite changer d'assureur, moi. Bah, je fais mon vieux schnock, hein, mais quand je lis ça, du temps gagné pour se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée ou plus stratégique. Voilà ce que nous rapporte l'IA, dit le PDG de Décuple, spécialiste du marketing des données. Les premiers déploiements datent du début 2023 et depuis, notre entreprise ne cesse de l'utiliser dans des tâches aussi variées que le reporting automatisé des campagnes marketing, la rédaction de fiches de poste, la génération de vidéos diffusées sur LinkedIn. Le tout est assorti de modules de formation auprès des 1100 collaborateurs pour éviter l'effet anxiogène. Il y a Rataxi dit, moi j'ai eu l'URSSAF hier au téléphone, le problème c'est que même les humains aujourd'hui te répondent des trucs bien vagues et bien flous. Aïe. Non, je dis ça parce que moi j'ai eu un dégât des eaux il y a quelques années, et donc avec un assureur qui n'était pas mon assureur habituel, mais qui était l'assureur qui m'avait été imposé par la banque pour mon prêt immobilier, on y revient toujours. Et donc j'avais un dégât des eaux, je m'étais retrouvé face à une interface, voilà. Sans à jamais avoir quelqu'un au téléphone, et j'avais aucune manière d'avoir quelqu'un au téléphone pour poser des questions, quoi. Et donc c'était voilà, donc c'était une interface sur Internet, et voilà, ben voilà, tu cochais les dégâts des eaux, et on disait ben voilà, on va vous faire un chèque de temps. Mais vous voulez pas voir les dégâts, vous voulez pas voir le truc, puis il faut envoyer un expert, parce que par rapport au voisin, qui a, tout ça et tout. Et donc en gros, le truc dit ben voilà, on vous fait un chèque de 1500 euros. Et puis vous débrouillez avec ça, puis vous verrez avec le voisin. Bah non, 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 c'est votre travail d'assureur, faut régler tout ça, quoi. Enfin, comme d'habitude, quoi. Voilà. Un enfer, quoi. Voilà. Non, pas d'expert, c'était une espèce de remboursement, je sais pas, voilà, comme ça, quoi. Enfin, et en gros, tu signais, puis tu prenais les 1500 balles, c'était fini, quoi. Pour eux, pas pour toi. C'était un, voilà, un banque-assureur, voilà. C'était l'assurance d'un banquier, quoi. Je sentais que c'était pas leur métier, une catastrophe. Et donc, du coup, bah, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite, voilà, c'était de la banque assurance, vous voyez. Et j'ai tout de suite, bah, j'ai changé l'assurance direct derrière. Je me suis dit, c'est pas possible, vous voyez. Tu as besoin d'être un peu rassuré, quoi. Bon, ça, j'aime bien ça. Mister Rocket me dit, Hello Sam, et dans Assureur chez nous, l'IA est juste présente pour vérifier le montant qu'on indemnise. Voilà. Moi, là où je veux pas. Des trucs automatiques ou de l'IA, c'est dans la gestion du dossier, quoi. Si c'est pour vérifier des calculs et tout, c'est OK, quoi. Il ouais. Faut que ça reste un outil, exactement. Donc, banque, assurance à déconseiller, Arch Carrier, je valide. Hein. C'était une catastrophe. Hein. C'était une catastrophe. Voilà. Et derrière, bon, en gros, cette banque assurance m'avait été imposée par la banque. On m'a dit, bah, on veut bien vous prêter de l'argent, mais il faut prendre pour un an au minimum notre banque assurance pour votre logement. Bon, bah, au bout d'un an, autant dire que j'ai vite redonné l'appartement à mon assureur traditionnel, quoi. Ouais. Le secteur des ressources humaines et du recrutement. Du coup, la sponsor banque assurance, c'est mort? Ouais. Parce que ça, je n'y crois pas du tout. C'est largement converti aux outils de l'intelligence artificielle. Ils permettent, à en croire Dominique Rodier, vice-président du groupe ADP France, d'améliorer la productivité de 30% en matière de RH et de recrutement. Pour tout ce qui est lié à des calculs répétitifs, le gain est énorme, dit ce dirigeant. Voilà. Indéniablement un atout pour une entreprise qui édite chaque mois 3 millions de bulletins de paie et autres soldes de tout compte. Le groupe propose aussi à tous ses collaborateurs en France un outil d'assistance juridique intégrant l'IA. L'usage de l'IA est devenu monnaie courante dans le domaine du recrutement car elle permet de rapprocher l'offre et la demande. Si vous n'avez pas le bon mot-clé dans le CV ou la description du candidat, ça ne marche pas, dit un monsieur. Bon là, en gros, c'est, il est en train de nous dév... l'article nous développe tous les secteurs d'activité où l'IA se développe pas mal en France, quoi. Donc on voit banque, on voit assurance, on voit ressources humaines, on voit la vente en ligne. Là, l'IA commence à être utilisée beaucoup, quoi. En revanche, c'est pas le cas partout. Transport, industrie, très peu. Voilà. Certains l'ont adopté, mais pas l'ont essayé, mais pas adopté. Une plateforme de service, on teste plein de choses, mais ça ne nous plaît pas trop. Résultat moyennement satisfaisant pour l'instant. Certaines entreprises ont tenté de mettre en place des ChatGPT internes, mais ont renoncé en raison de dysfonctionnement. Moi, mon épouse, elle l'utilise pas mal. Moi, pas du tout. Mais elle travaille dans le secteur de l'horlogerie. Parfois, elle a des petits textes à écrire. Et en fait, Hélène, c'est pas trop le littéraire. L'écriture, c'est pas trop son truc. Et donc, c'est comme ça qu'on dit, elle prompte des trucs sur ChatGPT, je crois, pour l'aider à pas écrire à sa place, mais à rédiger des textes qu'elle reprend après derrière. Et elle est super contente. Bon, moi, je fais pas ça parce que j'adore écrire pour le coup. Et du coup, ce qu'elle fait, donc, elle dit au truc, elle prompte le truc, on dirait voilà, bah, je voudrais un texte qui fait ça, quoi. Voilà, et ça lui donne un truc une base qui est, dit-elle, meilleure que ce qu'elle pourrait faire. Et après, elle me la donne à moi, cette base, comme elle sait que moi, c'est un peu mon dada, ce que j'aime bien, c'est trouver les mots, les trucs, faire les jolies phrases. Voilà. Et du coup, elle me le file, et moi, j'améliore le travail de ChatGPT. Ça, c'est mon rôle à la maison. Et gratuitement! Et gratuitement, c'est-à-dire je n'envoie pas de facture à ma femme. Alors souvent, je lui dis, bon, j'ai essayé au début, je lui dis, bon, parce que parfois c'est 1 heure de travail par-ci, par-là, et je lui dis, bon, ben, au début, j'ai essayé. Je lui dis, il y a moyen, petite facture. Petite facture. Et là, elle m'a fait le regard que je connais, qui est le regard qui n'incite pas à poursuivre la discussion. Je saurais pas vous le faire, elle le fait très bien. Donc à un moment j'ai dit mais alors, parce que c'est quand même du travail tout ça, est-ce qu'il y a moyen de il y a moyen de moyenner quoi et elle m'a fait un regard, c'est pas un regard méchant, je ne pourrais pas vous le faire, c'est un regard où tu sens que en fait c'est voilà, c'est la discussion est terminée, pas un regard dur, je sais pas, c'est très très fort, voilà. Et donc du coup ben je sais pas, je facture pas, c'est pas grave, mais du coup quand je fais une OP je rajoute à l'OP. Pour compenser, je dis voilà, en me disant tiens, ça c'est pour l'heure que d'hier soir. Ma lynx. Le lynx. suis con, hein. Aïe, voilà. Donc dans l'industrie, je n'utilise pas trop pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Viandox pour le 3e mois d'abonnement. Voilà, pour ce premier papier, on va en lire d'autres. Intéressant le résultat du sondage. Merci les modos. Utilisez-vous des IA dans votre quotidien? Très bon sondage des modos. Aucune. Alors, les deux. Les deux quoi? Ah oui, pardon. Ah, pour le perso, 18%. Pour le pro, 11%. Les deux, 40%. Donc, si je mets bout à bout tous les gens qui utilisent l'IA au quotidien, boulot ou perso, on est sur près de 70%. Et aucune IA, comme moi aujourd'hui. Il y a un sondage en haut du chat, ouais, Boubou. 31%. Alors, comme moi, de façon consciente, parce qu'en fait, on utilise déjà tous l'IA aujourd'hui. En allant sur Internet, en surfant, en utilisant des outils numériques qui, eux, utilisent l'IA. Donc, c'est comme le gars qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose, là, comment il s'appelait? C'est pas Jourdain ou Jourdain? Oui. Oui. Comment on dit déjà? Jourdain? Ben, Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on utilise tous l'IA sans le savoir. Voilà. Mais pour ceux qui l'utilisent consciemment, on est sur du quasiment 70%, quoi. C'est marrant ce que dit Yves Cousteau. Je suis dev et j'utilise beaucoup l'IA, mais avec le temps, je deviens trop dépendant et donc je suis en train de faire machine arrière. Intéressant. Alors, il y a ce papier dans le monde, mais ce n'est pas le seul papier que je vous lirai sur l'IA ce matin, parce qu'il y a beaucoup de papiers. Et je vais aller sur maintenant le 8 Echo spécial. Et les Échos, interview du spécialiste de l'IA, page 14. Ah oui, je sais. Parce que ça, c'est la dame qui dirige un peu le sommet qui arrive là. Page 14. Perso, j'utilise régulièrement, me dit Tardigrade. Mais par exemple, je suis responsable inscription d'un JDR en ligne et on refuse tout ce qui est généré par l'IA. L'imagination des humains est sans pareil. Intéressant. 14. C'est où ça? Ah, voilà cette interview qui a l'air intéressante. C'est Anne Bouverolles, envoyée spéciale du sommet pour l'action pour l'IA, envoyée spéciale du sommet pour l'action sur l'IA. Qui est-elle? C'est la présidente du conseil d'administration de Normalsup, l'école normale supérieure. Elle est aussi l'envoyée spéciale du président de la République pour le sommet pour l'action sur l'IA, donc qui va débuter là en début de semaine prochaine. Elle est diplômée de l'école normale sup en maths, titulaire d'un doctorat en IA, donc elle connaît un peu son sujet. Elle a travaillé 20 ans chez Orange, chez Safran. Voilà, il y a d'autres boîtes aussi. Bon, voilà, elle connaît, bon, manifestement, elle connaît le truc. Alors, je vais lire l'interview, je vais peut-être apprendre plein de choses. Nous ne sommes qu'au début de la révolution de l'intelligence artificielle. Question de David Barou et Julien Chauveau, donc dans Les Échos, 2 ans après l'émergence de ChatGPT, avez-vous le sentiment qu'on s'est un peu trop enflammé concernant le potentiel de l'IA? Il ne faut pas sous-estimer l'IA. On va parler de Mistral tout à l'heure, Fluton. Nous sommes face à une véritable révolution. Si tu veux, Samuel, tu peux payer quelques sous une IA pour automatiquement cut tes lives et publish sur TikTok et YouTube plutôt que de payer un vilain humain pour le faire. Non, je préfère faire travailler des humains. Je préfère. Une véritable révolution technologique, sociétale et économique qui va faire évoluer de manière fondamentale de nombreux métiers, mais aussi secteurs de notre vie, à commencer par l'éducation et la santé. Le sommet pour l'action que nous allons tenir à Paris va montrer à quel point nous sommes en train de parler d'une révolution à la fois très profonde et très rapide. Mais où sont les gains de productivité promis? Nous ne sommes qu'au début de cette révolution, dit-elle, nous commençons juste à percevoir son potentiel, mais la phase de cristallisation doit encore se réaliser. Pour que l'IA devienne concrète et génère des gains de productivité, il faut que les acteurs de l'IA passent des grands modèles de langage à des applications spécifiques. Les modèles actuels sont entraînés par des données trouvées sur Internet, ça n'a rien à voir avec les domaines industriels, protégés ou de santé publique par exemple. Il faut impérativement trouver le moyen de créer des bases de données de manière partagée en respectant des règles de confiance. Elles devront être accessibles gratuitement pour la recherche, à un prix peu élevé pour les startups. Elles seules permettront aux entreprises de bénéficier des gains de productivité, d'avoir les capacités d'innovation nécessaires. Il faut aussi veiller à assurer un certain niveau de multilinguisme, faire de la place à d'autres langues que l'anglais. Même si la révolution sera française, elle n'en reste pas moins pour... rapide, lapsus. Même si la révolution sera rapide, elle n'en reste pas moins progressive. L'adoption ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut se familiariser, essayer petit à petit pour avancer. Croire que cela ne va rien changer et ne pas commencer à adopter l'IA serait une erreur qui risquerait de nous faire prendre du retard. Il faut au contraire accélérer cette adoption. Alors très bien, elle a le pied sur l'accélérateur. Le journal lui dit, mais en même temps, l'IA fait un petit peu peur quand même. Et elle répond, il y a un an, quoi? Il y a un an ou deux, on était beaucoup sur un discours de science-fiction, sur la crainte d'une IA destructrice, d'une machine qui dominerait l'humain. La vision a commencé à évoluer pour au moins 2 raisons. La première, c'est que de nombreuses personnes ont commencé à tester, à utiliser l'IA générative, ChatGPT, ou le chat, pour parler d'un modèle français. Le chat, c'est pas une lessive. C'est une IA française, le chat. C'est pas une lessive, le chat. Je comprends rien. Je connaissais Mistral, moi. Je connaissais Mistral. Vous connaissez? Pourquoi il dit le chat? Le chat. C'est Mistral le chat? Ah, c'est le nouveau nom de Mistral? C'est lié à Mistral? C'est Mistral? Pourquoi il dit pas Mistral? Ah, parce que l'app s'appelle le chat par Mistral. Oh, ok. Donc c'est pas une lessive. Okay. Pour parler d'un modèle français dans leur quotidien. Et plus on l'utilise et plus on se familiarise avec l'IA, comme toutes les innovations, moins on la redoute. La seconde, c'est qu'on commence à comprendre que l'IA pourra permettre de véritables avancées positives. Dans la santé, par exemple, on sait que la technologie est porteuse d'espoir. Elle nous permettra de détecter plutôt certaines maladies comme le cancer. Ça, je trouve ça formidable. En maîtrisant mieux l'imagerie médicale. Cela pourra aussi servir à développer une médecine plus personnalisée, à concevoir plus rapidement de nouveaux médicaments. C'est génial! Cela ne veut pas dire que toutes les craintes concernant l'IA ont disparu. Les citoyens veulent à la fois partager leurs données pour faire avancer la santé et en même temps préserver leur identité. Nous devons trouver cet équilibre. Chez beaucoup, des interrogations persistent sur les conséquences potentielles de l'IA sur l'emploi, mais nous sommes déjà passés d'une forme de peur généralisée à une crainte plus personnalisée. Il est naturel de vouloir savoir ce que le développement de l'IA voudra dire pour chacun d'entre nous. Elle est bien cette dame!
Ok.
Est-ce que ça va détruire massivement de l'emploi? Très bonne question. Des échos. La généralisation de l'IA créera de nouveaux besoins et donc autant de nouveaux métiers, même s'il peut y avoir des craintes au niveau individuel. Sur un plan plus global, il existe un consensus des économistes qui s'accordent à dire que certains métiers pourraient disparaître, mais cela devrait représenter 5 à 10% des emplois au maximum. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, non? Ce sont des sujets que nous devons continuer à débattre avec tous les économistes qui seront présents. Pour la plupart d'entre nous, l'IA va impacter certainement des tâches. Il va falloir se former, repenser dans certains cas notre organisation du travail. Mais les êtres humains ne seront pas remplacés par les machines. Nous devons apprendre à travailler autrement. Le plus probable est que l'IA nous permettra de perdre moins de temps avec des tâches pénibles, répétitives et administratives. Bah moi, je veux bien une IA pour faire ma déclaration de TVA tous les mois. Hein. Parce que ça, je déteste. Hein. Déteste ça, moi. Je déteste ça. Elles pourront être automatisées. Oui. Nous aurons ainsi plus de temps à consacrer à d'autres parties à plus forte valeur ajoutée de nos métiers. Voilà, je pourrais plus lire le chat. Voilà. Dans certains secteurs, comme celui des devs, l'IA permettra d'être plus créatif, réactif, productif, comme il s'agit d'un métier en tension, sera pour nourrir de vrais gains de productivité. Et plus mettre de tête, ouais. Ok, après il y a le souci de la désinformation avec les photos, tout ça. Ok. Moi je vais à la dernière question que je trouve intéressante aussi. Vas-tu utiliser un M-bot? Ah non. Ah non. Moi je préfère être nul sans tricher que bon en trichant, évidemment, mais tout le monde d'ailleurs. Quel intérêt, quel intérêt? Tout le monde, non, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Est-ce que la France a une carte à jouer face aux États-Unis et à la Chine? Les acteurs anglo-saxons et chinois seront des acteurs de poids dans l'IA, c'est évident. Moi, je trouve que c'est une question qui est essentielle. Il n'y a pas de suspense là-dessus, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver notre place. On le dit souvent en France, nous avons des talents, un très bon système de formation, d'enseignement supérieur, de recherche et une excellente école mathématique, c'est vrai. Ça compte, on a aussi beaucoup en œuvre pour que les chercheurs français et d'autres aient envie de travailler ici. Et nous voyons les premiers résultats avec de nombreuses licornes de l'IA comme Mistral. Ah bah là, il dit Mistral maintenant. Ok. H, Hugging Face, Poolside, Dataiku, faut bien prononcer celui-là. Meraki, Pigment, Alan. Bah dis donc. La liste de belles entreprises dans des parties différentes de la chaîne de valeur est longue et impressionnante. La France a aussi une approche souvent basée sur l'open source, avec des modèles plus agiles, plus frugaux, plus spécifiques. Enfin, dernier atout, nous avons, grâce au nucléaire, une électricité abondante et décarbonée, utile pour les data centers. Et puis, nous ne sommes pas seuls, nous sommes européens. Blablabla, blablabla. Dataiku. Dataiku, bah, je préfère, oui, je préfère. Merci, Framboise. Je connais pas, moi, tout ça. Vous connaissez déjà tout ça, vous. Et miracle, c'est miracle, on dit en anglais. Mistral, c'est la boîte, le chat, c'est un de leurs produits. Merci, Papy Garagos. Ok. Ok, bon, bah, c'est plutôt clair, je trouve. Merci aux journalistes des Échos et à Madame Anne Bouverolles pour. Voilà, un numéro inconnu, je ne connais pas, je ne décroche pas, même si c'est important. Et non, les gars, si je connais pas ton numéro, c'est que. Hein? Bon, voilà, il y a une raison. Donc peut-être que je te rappellerai ou pas, je ne sais pas. C'est dingue ça. Ok, c'est pas fini sur l'IA ce matin. Alors là, on est avec les Échos. Et là, on va être avec. Les Échos, c'est où? Donc numéro. Ah, mais on va parler de Mistral justement. Page 9 et 10. Si. Voilà, si c'est important, il laissera un message. Exactement. 9 et 10. Hop. Non, c'est pas là? C'est pas dans les échos? Ah non, c'est page 24. C'était peut-être Bayrou? Ouais, ben. Je suis en live. Voilà. Le nouveau plan du gouvernement pour deux paliers en France. Voilà. Il y a un plan. Il y a un plan français. Oui, mesdames et messieurs. Oui, pour deux paliers. Ouais. Alors que la course fait rage, le gouvernement dévoile ses priorités pour renforcer la compétitivité et l'innovation à quelques jours du sommet pour l'action sur l'IA à Paris. Ok. Quelques heures seulement après avoir fait voter le budget par les députés, alors que la France accueille la semaine prochaine des chefs d'État et d'entreprises du monde entier pour le sommet sur l'action sur l'intelligence artificielle, Matignon a dégainé une Vandale. Non. Son nouveau plan pour accélérer sur cette technologie. Alors, qu'est-ce à quoi ce truc? Notre stratégie nationale doit entrer dans sa troisième phase, ambitieuse sur la diffusion de l'IA dans l'industrie, dans l'action publique, dans la formation, dans la recherche, avait dit Bayrou lors de son discours de politique générale. Okay. Et ce sommet en est la preuve, abonde son cabinet. La stratégie nationale pour l'IA, amorcée en 2017 sous l'impulsion du président Macron, entre désormais dans son troisième volet. Si l'enveloppe complète ne sera connue qu'au sommet, qu'au moment du sommet, elle comprendra à minima une nouvelle dotation de 400 millions d'euros pour la France, pour le plan France 2030 consacré à l'innovation et à la formation. À cela devrait s'ajouter un fonds européen pour l'IA qui sera dévoilé dans le cadre du sommet, ainsi qu'un ensemble d'investissements privés, d'entreprises françaises ou étrangères sur le vieux continent. Au total, les sommes injectées dans l'économie tricolore devrait néanmoins rester très loin de celle évoquée aux États-Unis. Merci Hugo Roasted. Notamment les 500 milliards de dollars du projet Stargate. Donc nous, on est sur sur des plusieurs centaines de millions d'euros, en gros. Et là où Stargate, par exemple, on parle de 500 milliards de dollars. C'est plus. C'est plus. Certes, cette annonce de financement privé du projet Stargate ne verra le jour qu'au bout de plusieurs années, tandis que l'État américain, pour l'instant, n'a pas investi un seul dollar, c'est intéressant, mais la comparaison reste vertigineuse. Ouais. Les premiers investissements du plan IA s'élevaient à 1,5 milliard d'euros entre 2018 et 2021 pour renforcer les capacités de recherche. 1 milliard, parce que ça, c'est les nouvelles sommes, mais il y en a déjà eu, hein. 1 milliard entre 2022 et 2024 pour diffuser l'IA dans l'économie. L'exécutif veut accélérer d'abord sur les infrastructures et ils vont dévoiler en début de semaine là 35 sites clés en main pour accueillir de nouveaux data centers. Ça va être annoncé en début de semaine. En clair, des terrains où les principales problématiques auxquelles font face des constructeurs privés, foncier, raccordement, acceptation de la population locale, sont déjà réglés. Ils ont préchoté le truc. Voilà. Faire sortir de terre un centre de données dans l'Hexagone est un véritable casse-tête, prend en général plusieurs années, là où les Américains mettent en général 2 fois moins de temps avec une réglementation moins sévère. L'idée est de dire aux acteurs internationaux, venez en France, installez vos data centers, on est prêt, quoi. Et profitez de notre énergie décarbonée. Nucléaire, baby. Nucléaire. Voilà, des trucs clés en main, quoi. Ok. Mal. Et l'énergie nécessaire à alimenter les data centers, comment on fait? Demande Anton d'Urberville. Nucléaire, baby! Nucléaire? Que dit le gouvernement? C'est ce qu'ils disent, hein. Je pense que c'est. Ouais, je sais, je suis en retard sur le best-of, Alexandre. Je suis en retard. Donc, quel est votre regard sur ce plan français pour booster l'IA chez nous là? Y a Bob Fantôme qui dit pour moi l'IA c'est une hype, ça va pas durer. Peut-être. Peut-être que ça, je sais pas ça. Moi, je pense que parfois on s'emballe. Vous voyez, Internet, par exemple. Internet. Moi, je ne crois pas du tout. Mark my words. Vous verrez qu'Internet, on va en revenir. Je crois pas du tout que ce truc va décoller vraiment. C'est beaucoup de. Tout le monde dit Internet, Internet, le web, le World Wide Web, tout ça là. Je suis pas sûr que ça décolle vraiment. Il y a Jernet Benzouz dans le chat qui vient d'écrire. C'est là depuis des dizaines d'années. Pardon, excusez-moi, j'étais en pause. J'étais en pause, j'étais en pause. Comment ça, deux notifications de téléphone, mais tout le monde m'appelle ce matin. Personne ne m'écrit, personne ne m'écrit. J'ai des numéros que je ne connais pas qui m'appellent, mais c'est tout. J'ai plein de messages, plein de messages. Par contre, des WhatsApp, ça y va, ça. Sur Twitch, il y a quelqu'un qui me demande, t'es passé sur Quotidien? Mais c'est comment? C'est Mathéo sans accent? Ouais, sur Twitch, j'ai parlé de Twitch. Mais je vais arrêter. En fait, il y a un truc qui ne va pas. Je vois pas pourquoi c'est moi qu'on invite pour parler de Twitch. Je suis un streamer parmi des milliers de streamers. Il y a plein de streamers et de streameuses qui connaissent bien mieux Twitch que moi, qui sont sur Twitch depuis bien plus longtemps. Et en fait, c'est moi qu'on invite. Et en fait, ça n'a pas de sens. Parce que je viens de la télé, exactement. Et ben ça ne va pas. Et donc, moi, je vais arrêter. J'adore Quotidien, j'adore Yann. Hein. C'est pas contre eux. Mais en fait, je vais arrêter de répondre aux interviews sur Twitch aussi. Parce que je trouve que je suis beaucoup trop mis en avant par ces médias traditionnels. Ouais. Moi, je voudrais qu'on voit des Amine, des Kameto, des Gotaga, des Zerator, des Magla, des Trivia, pour parler de Twitch et tout ça, quoi. Pas des Samuel Etienne, quoi. Ça va, ils sont bien mis en avant par les médias traditionnels? Qui en parle? Des Domingos? Quasiment aucun média n'a parlé du Stream for Humanity d'Amine. Magla est déjà passé dans le quotidien, c'est vrai. Tu as raison. Tu peux pas les rediriger vers d'autres streamers lorsqu'ils t'invitent, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est vrai que Magla est passé il y a 2 semaines. Ouais. Amine, personne n'en parle. Je suis d'accord, Karel. Que les médias traditionnels puissent quasiment ignorer un gars comme Amine, au vu de ce qu'il fait aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais si Ardisson a invité Squeezie. Ah oui, je me rappelle. Boubou, ouais. Après, pour le coup, c'est vraiment pas contre Quotidien qui. Je pense que Magla, elle a pas fait 1 000 émissions de télé et que Magla a été invitée dans Quotidien. En vrai, c'est une bonne nouvelle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur l'IA, j'ai pas terminé, pardon. On va aller voir. On va parler de Mistral, page 24. Ici, bah c'est en bas là. J'ai 2 articles sur Mistral ce matin. Après, est-ce qu'ils veulent y aller? Non, en vrai, non. Je pense que les créateurs de contenu ne sont pas tellement intéressés pour aller sur les plateaux télé, les médias en général. Et parce que finalement, ils savent que leur public, le public qu'ils intéressent, n'est pas vraiment là, quoi. Donc oui, ça va aussi dans les deux sens. Moi, je sais que parfois, j'ai des émissions de télé qui me demandent les contacts de tel ou tel streamer que je donne avec l'accord du streamer ou de la streameuse pour essayer de les inviter. Et souvent, en fait, ils n'y vont pas. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Et je le comprends tout à fait, en vrai. C'est pour parler 1 minute entre deux trucs avec très peu de temps de liberté, alors que sur leur chaîne, ils ont temps, alors qu'ils ont déjà leur propre média pour faire passer leur message. avec une vraie parole qui va pas être qui va pas être critiquée, qui va pas être encadrée, qui va pas être limitée. Finalement, pourquoi quand tu es un média, aller sur d'autres médias dont tu n'as pas vraiment besoin, finalement, faire passer les messages que tu veux faire passer, quoi. Ils acceptent des fois quand même, parfois, mais très peu, quoi. Zera accepte parfois des interviews, notamment de la presse écrite ou de Radio France, je me rappelle, pour parler du The Event, mais je le crois, il le fait pour la cause, il le fait pour le The Event. Il ne le fait pas pour lui. Zera n'a pas besoin des médias traditionnels pour être Zera et pour grandir et faire des projets de fou. Je pense qu'il le fait pour le The Event. Donc, oui. C'est vrai qu'il a laissé Faustine Bollard, toi. Non, Flenou, c'est vrai. Non, quand tu dis Zera, réponds à aucune interview. Non, il est allé chez Faustine Bollard il n'y a pas longtemps. Mais du coup, si tu le fais pas, que ça intéresse pas les streamers, qui va le faire? Ah oui, c'est vrai. Bonne question. Après, si les médias traditionnels s'intéressent, commencent à s'intéresser vraiment, sincèrement, avec une vraie démarche de curiosité et d'ouverture d'esprit, à ces univers-là, ben, dans ce cas-là, je pense que les invitations seront plus facilement acceptées, quoi. Et d'ailleurs, on disait Zera chez Faustine, c'est Zera chez Faustine Bollard pour YouTube. C'est pas à la télé d'ailleurs. Hein, c'est pas une émission de télévision, c'est sur sa chaîne YouTube. Merci Moulbit. Mais bon, oh, c'est un tout petit sujet, pourquoi on parle de ça? Parlons plutôt de Mistral AI. Nous dit The Les Echos, à l'assaut de ChatGPT et DeepSeek, oui, sur les smartphones. Hein, il y a Mistral qui débarque sur les smartphones. La pépite française de l'IA lance une appli mobile pour iPhone et son équivalent sur les appareils Android. Il y a Jernet qui dit Samuel récupère le canal 8 de la TNT pour mettre ta chaîne Twitch et l'utiliser public. C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Mistral AI part à la conquête des foules. Réputée parmi les meilleurs laboratoires mondiaux d'intelligence artificielle, la start-up française la plus en vue du secteur se faisait un nom depuis sa création il y a 2 ans auprès des entreprises et administrations. Vous connaissez ça très bien parce que moi je ne connaissais pas et vous connaissez. Le jeudi, à quelques jours de l'ouverture officielle du sommet de Paris pour l'action sur l'IA, l'entreprise d'Arthur Mensch a lancé sa première application mobile grand public, baptisée le chat, okay, comme ça c'est clair même pour moi. Comme le chatbot déjà disponible sur le web depuis près d'un an, elle vient concurrencer sur les smartphones le pionnier ChatGPT d'OpenAI. Bon, je devrais le prononcer à l'américaine, mais je m'en fous. Je fais tout à la française maintenant. Gemini de Google, Copilot de Microsoft et le phénomène chinois DeepSeek, devenu pendant quelques jours l'application la plus téléchargée aux États-Unis fin janvier. Si tu récupères un canal TNT, tu devras inviter l'extrême droite au moins en période électorale. Je sais, Pascal, ouais. C'est une obligation de l'ARCOM, ça. Pour se démarquer, Mistral AI, alors c'est bien ou pas? Mettre d'abord en avant la vitesse d'exécution de sa technologie. Comme ses rivaux, le chat répond à toutes sortes de questions, peut aider pour planifier un voyage ou une réunion. C'est bien ou pas, Mistral? Planifier un voyage, une réunion, c'est résumer de longs textes, créer des images, programmer en langage informatique. Pas mal? Ouais. Pas comparable avec ChatGPT ou DeepSeek? Il l'a été, mais ils ont été pris de vitesse. Très bien. En plus, c'est open source. Bon appétit, Alexandra. C'est pas mal. Super rapide. Vraiment pas mal. Mieux que Lucie, tu m'étonnes. C'est bien Mistral, réputé dans le milieu, effectivement, me dit Lanfst. Lanfst. Super rapide, ouais. Pas aussi pointu que ChatGPT. De plus en plus comparable aux autres AI. Ok, ça a l'air ok. Voilà. Pardon, le chat, mieux que le chien, dit Quintino, je suis pas d'accord. Team chien ici, le chat raisonne, réfléchit, répond plus rapidement que n'importe quel autre assistant de chat, jusqu'à 1 000 mots par seconde, vante la start-up en présentant l'application. Quelques semaines après la signature d'un accord avec l'agence de presse AFP, Mistral souligne aussi avoir nourri son modèle d'IA avec des sources de données variées et équilibrées, dont des contenus journalistiques. Comme pour ChatGPT, l'application est disponible gratuitement, mais des options supplémentaires sont ouvertes à partir de 15 euros par mois, bon, ça c'est normal, contre moins 20 euros chez son concurrent. L'offre payante de Le Chat, putain, à chaque fois je vois la lessive, moi je peux pas, Le Chat, les gars. Ah bah non, bah tu tapes. Tu... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand tu tapes Le Chat sur Google ? Tu tombes sur Le Chat Mistral, c'est incroyable. Il n'y a que moi qui pense à la lessive. Quand tu tapes Le Chat Google Images, attention suspense, il y a ça. Il y a du chat. Voilà. Moi, je pensais qu'il y aurait la lessive. Mais pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est aussi une lessive. Et moi, je vois la lessive, moi. C'est chat, le chat. Le chat, c'est ça. C'est pas de l'IA. C'est la lessive, les gars. Donc, ça va, Clamakin ? Merci Florian pour le prime. Ça va, Clamakin ? Oui, pardon. Oui, excuse-toi, oui. Ouais. Ok. Non, parce que bon, parfois, il y a des commentaires. Ouh. Ok. Donc, l'offre payante de Le Chat permet notamment de bloquer le partage des données auprès de la start-up qui s'en sert pour analyser son service et l'améliorer. Pour 24,99€, Le Chat est mis à jour en direct avec des informations de l'AFP. Moi, je vois toujours ma lessive, mais bon. Valoriser 6 milliards d'euros. Mistral AI s'était jusqu'ici concentré sur le développement de modèles d'intelligence artificielle, LLM, à destination des entreprises. Mais la pression monte par ailleurs sur le modèle économique des créateurs de LLM, alors que ce produit tend à devenir une commodité non différenciante pour les éditeurs de logiciels qui construisent leur propre application dessus. Je n'ai rien compris à la phrase que je viens de dire. La pression monte par ailleurs sur le modèle économique des créateurs de LLM, alors que ce produit tend à devenir une commodité non différenciante pour les éditeurs de logiciels qui construisent leurs propres applications dessus. Voilà. Alors, sûrement que vous, ça vous a parlé. Je vous le lis, je vous donne l'info, hein, parce que je suis sûr que ça va vous parler. Mais là... Non ? Ah, je ne suis pas tout seul ? Ok, trop bien. L'incursion de Mistral AI vers le grand public n'empêche toutefois pas la société de continuer à s'implanter dans les entreprises. Elle vient ainsi de signer des partenariats avec Veolia et France Travail. Large Language Model. Une version pour les entreprises de Le Chat entre par ailleurs en test auprès des premiers utilisateurs. Bon, moi je vous rappelle que pour moi, Le Chat, c'est ça. Et donc j'ai besoin d'un petit peu de temps. Voilà. Et puis, sachez que 57 ? Ah, je vous abandonne. Que si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'articles sur Mistral ce matin. Par exemple, si on va dans Le Figaro, vous avez quasiment une page, je crois. Page 28. Voilà, Le Figaro, page 28, il faut aller loin. Là. Parce que des articles, il y en a. Oh là là, 29. Boum, une page. Regardez. Mistral AI part à l'assaut du grand public en lançant son assistant sur mobile. Voilà. Vous voyez, donc... ce matin, il y a beaucoup d'IA dans la presse. Et voilà, merci les amis. 5 revues de presse en 5 jours. Lundi, revue de presse. Mardi, revue de presse. Mercredi, revue de presse. Jeudi, revue de presse. Vendredi, revue de presse. J'en ai oublié un jour. Enfin bref, c'est un 5 à la suite. Et il y a eu du gaming tous les jours. Il y a eu des trucs et tout. Je vous donne rendez-vous pas demain matin. Demain, on part sur... ce week-end, on part sur un énorme truc. 2 jours de stream. 2 jours entiers de stream. Hein ? Hop, avec... Ça, c'était Mel hier soir. Ça, c'était moi quotidien. Ça, c'est Gastronogeek dimanche à 20h dans Ça me plaît. Voilà. Et vous avez demain... Alors, ça devait être à partir de 9h. Et puis, je découvre ce matin sur Discord que c'est 10h. Bon, ça devait se terminer à 19h. Et je vois une fin à 20h30. Il faut que je creuse ça. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Rise to Supremacy, 24 équipes féminines Valorant, 120 candidates, je dis pas de bêtises, voilà, que des compétitrices, un événement pour mettre en avant le gaming et l'e-sport au féminin, que des casteuses, hein, avec Kumquat, avec Chipset, avec Sellycats, avec Marie-Amélie, qui sont formidables, que je connais déjà, voilà, et puis un gars, un vieux gars qui traîne par là, qui va hoster, Du coup, l'événement ne sera que sur ma chaîne pendant 2 jours. Il faut juste que je regarde un petit peu les horaires là, parce qu'il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on avait prévu. Voilà. Y a des sponsors ici, là, je les cite pas. Il n'y a pas d'aspect commercial pour moi. Ça, c'est pour l'eSpot, pour leurs frais. Mais je le fais à titre gracieux, bénévole, parce que je crois au sujet. Voilà. Donc, je ne mets pas de hashtag commercial et tout, parce que pour le coup, je le fais parce que je trouve ça cool. C'est quand ? C'est tout samedi, c'est tout dimanche. Voilà. Mais je vais leur écrire un mail, là, parce que je n'ai pas beaucoup d'infos sur le truc. Et pour le coup, sur les horaires, je m'inquiète un petit peu, quoi. Voilà. Donc, merci. On fait un raid. Je vous laisse parce que là, je pars au ski. Non, c'est pas vrai. Je vais faire un team sur un truc sur le ski qui est en live. Actuellement, ok. Hop, j'actualise. Merci, Pandar. Merci beaucoup. Dès 9h, bah, moi, on m'avait dit 9h. Puis là, j'ai vu 10h sur le Discord. Je sais pas. Je vais aller à la pêche aux infos et je vous dis ça dans la journée. Ouais. Il y a Ninion qui est en live. Il y a Nini qui est en live. C'est cool en vrai. Nini qui va venir. Ah, mais je ne vous l'ai pas dit ça. Je ne vous l'ai pas dit. Nini, Ninion. Notre amie qui vit au Japon depuis des années. Hein, elle n'est pas venue en France depuis des années. Elle vient bientôt une semaine en France. Elle sera dans Ça me plaît, mesdames et messieurs. Voilà. C'est une Française qui vit au Japon depuis super longtemps et voilà, on s'est un peu parlé. Et elle vient dans pas longtemps dans Ça me plaît, c'est calé, let's go. Du coup, on va la raid, puisque par ailleurs, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle a un super contenu. Nini, c'est parti. Vous l'appelez Ninion, vous l'appelez Nini, vous l'appelez comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à suivre cette belle chaîne. Je lance le raid et je vous retrouve pas ce soir, parce que ce soir, je vais me reposer pour être en forme pour ce gros week-end. Pas demain matin pour la revue de presse, mais demain matin à partir de 9h, 10h. Pour le stream Rise to Supremacy. Ok ? Prenez soin de vous. Merci pour ce matin. Merci pour la semaine. À demain. Vous aurez ma tête sur Twitch pendant 2 jours. Ciao, ciao. Merci pour tout.